Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 6 mars. J'ai la chance d'être accompagné avec d'une très belle équipe, aujourd'hui avec Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Bonjour également à Magda Dautefeuille et à Julie qui est présente parmi nous et que vous allez apprendre à découvrir, chers auditeurs. Alors, c'est évidemment un plaisir pour moi de vous retrouver, mais je vous retrouverai également en compagnie d'invités. Excusez-moi de remplacer Richard Decaize, aujourd'hui je le ferai sans doute moins bien que lui, mais enfin de mon mieux quand même. On commencera cette journée, avec cette matinale, avec un entretien avec Pierre Gentillet. Pierre Gentillet que vous connaissez, qui est avocat au barreau de Paris et qui nous parlera des Antifa et des Némésis, savoir qui l'État va bien pouvoir dissoudre après la mort de Quentin. Et puis ensuite à 7h25, nous serons rejoints par Patrick Huiban qui nous parlera d'Israël et de l'Iran. Est-ce que l'Europe part en guerre? Ensuite à 8h15, nous parlerons avec Michel Hamas de l'aide sociale à l'enfance. Qui est responsable du scandale et pourquoi l'État? Et puis enfin à 8h57, comme un vendredi sur deux, ce sera Rémi Tell qui nous rejoindra pour parler d'Iran lui aussi. Donc un beau programme en perspective qu'on va commencer avec un petit point sur l'actualité présenté par Magda Dautefeuille.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Au 7e jour de la guerre régionale avec l'Iran, les tensions militaires continuent. Alors que mercredi, un sous-marin des États-Unis a coulé un navire de guerre iranien, maintenant c'est l'Iran qui affirme avoir touché un pétrolier américain dans le Golfe, indiquant le navire en feu, selon les gardiens de la Révolution, dans un communiqué lu à la télévision de l'État. Qui ne donne pas plus de précisions. À ce stade, aucune confirmation indépendante n'a été apportée par les États-Unis sur l'ampleur des dégâts. Parallèlement, l'Azerbaïdjan accuse l'Iran d'avoir frappé l'aéroport international de Kakhitchevan, une enclave azerbaïdjanaise située entre l'Arménie et l'Iran. Les autorités locales affirment que l'infrastructure a été visée, avec un bilan humain de 2 blessés pour le moment. Le conflit s'élargit donc et dépasse désormais les seuls affrontements directs et touche plusieurs zones stratégiques de la région.
Et puis la justice tourne du côté de l'affaire Naël.
Et oui, la cour d'appel de Versailles a ordonné dans un communiqué ce jeudi que le policier ayant tué Naël en juin 2023 à Nanterre soit jugé devant la cour criminelle pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Comme Gilbert Collard l'a bien dit, la chambre de l'instruction de Versailles inflige donc un camouflet au juge d'instruction et au parquet en décidant que le policier sera jugé sans que l'intention de tuer existe. L'évidence et le bon sens juridique l'emportent enfin sur l'idéologie aveugle. Le policier Florian M. était placé sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen en 2023 après plusieurs mois de détention provisoire dans ce dossier qui avait provoqué les violentes émeutes en France. Écoutons Maître Liénard prendre la défense de Florian, le policier mis en cause sur Le Figaro.
Alors, après avoir passé 4 mois et demi en détention, après avoir vécu ce qu'il a vécu, et avec l'épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête, je pense que, comme tout être humain, il laisserait partir cette voiture et il laisserait tuer des gens. Mais aujourd'hui, au fond de lui-même, il n'a aucun regret. Il n'a aucun regret parce qu'il est persuadé, et il en a raison, il est persuadé d'avoir sauvé des vies ce jour-là.
Il est persuadé de n'avoir pas violé la loi, d'avoir pris la bonne décision.
La bonne décision. Vous savez, c'est un homme qui est un homme d'expérience, c'est pas un gamin. C'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a été militaire, il a été déployé en Afghanistan. Il n'a jamais tiré une seule fois sur quelqu'un. Il a été policier, il a été confronté à de multiples refus d'obtempérer, il n'a jamais tiré. Il a sorti son arme des centaines de fois, jamais il n'a tiré. Et ce jour-là, en une fraction de seconde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'un quart de seconde. Dans le quart de seconde, il se dit, si je laisse cette voiture partir, il va faire un strike, et c'est son expression.
Voilà, et puis sur cette affaire Naël, dont on n'a pas fini d'entendre parler, mais on parle aussi de l'affaire Quentin.
Et oui, mieux vaut tard que jamais, l'enquête sur la mort de Quentin avance. Un 7e suspect a finalement été placé en détention provisoire après une décision de la cour d'appel qui a annulé la remise en liberté décidé auparavant par un juge. Il est donc mis en examen pour homicide volontaire, comme 6 autres suspects déjà incarcérés dans cette affaire. Selon les éléments de l'enquête, les suspects âgés de 20 à 26 ans sont bien très proches ou membres de la Jeune Garde antifasciste, un mouvement fondé par le député LFI Raphaël Arnaud, ainsi que de ses collaborateurs parlementaires. Avec cette nouvelle incarcération, les 7 hommes mis en examen dans cette affaire sont désormais tous en détention. Une incarcération qui intervient malgré tout plusieurs semaines après les faits.
Et puis les syndicats agricoles désormais alertent sur la flambée des coûts de l'énergie.
Et oui, les syndicats agricoles tirent la sonnette d'alarme face à la hausse rapide des prix de l'énergie. Selon la coordination rurale, le prix du gaz naturel a augmenté d'environ 85% depuis le début de la guerre avec l'Iran, ce qui entraîne directement une hausse du coût des engrais azotés fabriqués à partir de gaz. Conséquence, les charges explosent pour les exploitants. Le prix de l'urée, un engrais très utilisé, a déjà augmenté d'environ 13%, tandis que le gasoil agricole est passé d'environ 700 à 900 euros les 1000 litres. Face à cette situation, la coordination rurale demande la mise en place d'un bouclier tarifaire pour l'énergie utilisée par les agriculteurs, tandis que la FNSEA appelle le gouvernement à plus de transparence sur l'évolution des prix du carburant et à renforcer les contrôles pour éviter les hausses abusives. Les syndicats demandent aussi d'ouvrir une réflexion sur la relocalisation de la production d'engrais en France et en Europe, estimant que la dépendance actuelle fragilise directement la souveraineté alimentaire.
Voilà, il aurait fallu y penser il y a 20 ans malheureusement, mais pour ce qui est du sport...
Aujourd'hui aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Milan-Cortina qui se dérouleront du 6 au 15 mars et la France n'enverra pas de représentant de son gouvernement à la cérémonie d'ouverture pour exprimer son désaccord avec le retour des athlètes russes et bélarusses, a indiqué la ministre des Sports Marina Ferrari, mais la France participera bien aux Jeux.
Très bien, et quelques mots de la météo.
Eh bien aujourd'hui, une perturbation arrive par la Bretagne et la façade atlantique avec des averses, de belles éclaircies en Ile-de-France ainsi que dans le centre. Des pluies dans le golfe du Lion. Côté température, nous pourrons relever ce matin 10 au Mans, 11 à Paris et 10 à Cherbourg. Dans l'après-midi, les maximales seront de 17 degrés sur le Grand Est, 11 en Normandie et jusqu'à 17 degrés autour du golfe du Lion. Et nous célébrons en ce 6 mars Sainte-Colette et Saint-Fridolin.
Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite.
Magda, on vous retrouve dans quelques instants pour le grand entretien que vous animerez, mais tout de suite, on passe au décryptage de Julie Solveig.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous les auditeurs. Pour ce décryptage, nous allons revenir ensemble sur le fait politique de la semaine, ou plutôt devrais-je dire celui qui aurait dû l'être. Le 23 février dernier, Nicolas Jeanneté, ancien directeur du parti Les Centristes et actuel conseiller municipal du 15e arrondissement de Paris, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques et trafic de stupéfiants. On pourrait dans un premier temps s'étonner d'une peine de prison avec sursis pour des faits aussi graves. Selon les associations de défense de l'enfance, l'élu possédait en effet des images monstrueuses, effroyables, à vomir, les parties civiles évoquant notamment des viols d'enfants, parfois de bébés. À l'audience, comme souvent dans ce genre de cas, Nicolas Jeanneté a juré qu'il ne savait pas comment ces images se sont retrouvées sur son téléphone et son ordinateur. Il a en revanche reconnu qu'il était adepte de soirées chemsex et qu'il visionnait, lorsqu'il était en état second, toutes sortes de vidéos crades avec des animaux. Il a également reconnu avoir écrit à l'un de ses interlocuteurs qu'il voulait violer un migrant de 12 ans avec un chien. Des propos qu'il présente aujourd'hui comme de simples délires verbaux. Dans le domaine du monstrueux, on pourrait s'arrêter là, mais nous sommes en France et l'histoire ne serait pas parfaite s'il n'y avait pas, en plus, derrière tout ça, une affaire d'omerta et de passe-droit. À la rédaction de ce décryptage, j'ai hésité, je vous l'avoue, Alexandre, à le commencer par cette phrase « circuler, il n'y a rien à voir ». Car si Nicolas Jeanneté a été condamné le 23 février 2026, sa date de mise en examen date, elle, de mars 2023. Et accrochez-vous, chers auditeurs, depuis cette date, Nicolas Jeanneté n'a pas quitté sa place de conseiller à la mairie de Paris. L'information, pour être honnête, m'a paru délirante. Alors j'ai sorti mon téléphone, d'abord pour appeler la mairie de Paris, puis appeler la mairie du 15e. À la mairie de Paris, il a fallu ruser pour avoir un faux début de réponse. J'appelle, j'explique la raison de mon appel, on me met en attente, et puis plus rien. J'appelle ensuite à nouveau deux fois, pas de réponse. Mais je ne me décourage pas et appelle cette fois-ci avec un autre téléphone. Et là, miracle, on me répond à nouveau. Mais mon interlocuteur botte en touche, on m'assure simplement que Nicolas Jeanneté, selon toute vraisemblance, n'est plus venu au Conseil de Paris depuis sa mise en examen. On me redirige alors vers la mairie du 15e. J'appelle donc la mairie du 15e, où l'appel sera là plus expéditif. On ne sait pas si Nicolas Jeanneté s'est rendu au Conseil de Paris, on n'a pas accès à de feuilles de présence, il faut contacter le standard de l'hôtel de ville, qui évidemment, horaire oblige, ne répondra pas. Fort heureusement, dans le même temps, une source que j'ai contactée me répond. Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, Nicolas Jeanneté siège toujours en tant que non-inscrit au Conseil de Paris. Mieux encore, il continue de toucher ses indemnités dont le montant est d'environ 3 500 euros par mois. Si on fait un petit calcul rapide, en estimant que Nicolas Jeanneté a touché cette somme tous les mois depuis sa mise en examen, les contribuables lui auront donc versé depuis mars 2023 126 000 euros. Nul doute que les Français apprécieront d'avoir versé cette somme dans les poches de Nicolas Jeanneté pour lui financer ses drogues de synthèse et sa connexion Internet lui permettant d'accéder à ses images pédopornographiques.
Merci beaucoup pour cet excellent décryptage, Julie Solveig. Et tout de suite, ce qui va se passer, c'est que on va écouter Pierre Gentillet dans un entretien que j'ai réalisé il y a deux jours, juste dans sa ville d'Argenton-sur-Creuse. Antifa ou Némésis, qui sera dissous en premier par Nunez? C'est la question à laquelle il va répondre.
Ligne droite. Debout les Français.
Pierre Gentillet, bonjour, merci de nous recevoir ici à Argenton-sur-Creuse, où vous êtes d'ailleurs candidat à la mairie pour les élections municipales.
Merci à vous de vous déplacer jusqu'ici avec votre studio.
Mais c'est avec un grand plaisir, c'est une ville magnifique. On va parler d'un sujet qui est assez différent, qui est quand même celui de, évidemment, après l'affaire Quentin, plusieurs questions se sont posées sur le droit des associations dont vous êtes spécialiste et particulièrement sur la question des dissolutions. La première question que je voudrais vous poser se situe plutôt au niveau de la Jeune Garde. La Jeune Garde donc, qui avait subi une procédure de dissolution sous Bruno Retailleau, qui a déposé un recours. Est-ce que actuellement il y a des fondements juridiques qui permettraient d'inculper les membres de la Jeune Garde pour reconstitution de Ligue dissoute, notamment avec leur groupe éteignant la flamme, Génération antifasciste? Est-ce que, par le fait qu'ils se réunissent et qu'ils mènent des actions visiblement violentes ensemble, on pourrait les inculper?
Alors, peut-être déjà expliquer un petit peu pour nos auditeurs ce que ça signifie. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a la capacité de dissoudre une association. Une association, ça peut se dissoudre volontairement, ça peut aussi être dissous par la contrainte. Donc c'est un décret. Donc c'est une décision importante qui est prise par le Premier ministre ou par le Président et paraphée par le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui la motive en Conseil des ministres. Donc si vous voulez, on ne dissout pas des associations tous les jours. Donc c'est une mesure importante, grave. Pour la Jeune Garde, le décret de dissolution est paru. Il a été attaqué devant le Conseil d'État. Il y a deux recours. Un premier recours devant le Conseil d'État en référé qui a échoué et un deuxième recours qui est en train d'être examiné et qui devrait normalement trouver sa conclusion d'ici quelques semaines ou un mois, en tout cas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc la Jeune Garde aujourd'hui, elle est dissoute. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Il y a un recours, mais le recours n'est pas suspensif. Ouais. On entend beaucoup parler de ça, vous savez, pour d'autres affaires de procès. Mmh. Ici, le recours, il n'est pas suspensif. La Jeune Garde, elle est dissoute. Si jamais le Conseil d'État venait à annuler cette dissolution sur le fond, parce que je dis qu'il y a encore un recours, alors effectivement, là, ça changerait tout. Mais pour l'instant, elle est dissoute. Il y a une sanction immédiate à la dissolution, c'est le fait que, concrètement, pour ceux qui ont une association, vous le savez, vous ne pouvez plus utiliser votre compte en banque, vous ne pouvez plus vous réunir, enfin bref, il y a plus de, vous n'avez plus de site internet, vous n'existez plus. Mmh. Si vous voulez, parce qu'une association, c'est une personne morale, concrète, en plus, qui fait écran. La sanction n'est pas simplement la dissolution, ici. C'est l'interdiction de reconstituer la même association, mais cela s'est pris de manière assez large. Je m'explique. En 1936, je crois, c'est cette loi qui a été adoptée à ce moment-là. Alors, je ne sais plus quel est exactement le nom de cette loi, mais elle est parue au moment du Front populaire, puisque je crois que c'est Léon Blum qui avait fait, le gouvernement Blum qui avait fait adopter cette loi. Vous savez qu'à l'époque, il y avait un certain nombre d'agitations, de groupements, de ligues, et ce gouvernement a fait passer une loi précisément pour la dissolution de groupuscules radicaux. Et cette loi a été utilisée. Si une structure qui est dissoute décide de se reconstituer sous une forme légale déclarée ou non, alors elle encourt ce que vous venez de dénoncer, c'est-à-dire le délit de reconstitution de ligue dissoute. C'est-à-dire que concrètement, si demain, Raphaël Arnaud ou d'autres membres de la Jeune Garde décident de recourir aux mêmes actions, alors le Conseil d'État, il y a une jurisprudence là-dessus qui n'est pas très fournie, parce que des dissolutions d'associations, il n'y en a pas tous les jours, si vous voulez. Le Conseil d'État, pour voir s'il y a une reconstitution de ligue dissoute, il va procéder par faisceau d'indices. Il va regarder si ce sont les mêmes membres qui se regroupent. Il va regarder aussi si ce sont les mêmes modes opératoires. Vous voyez, on a beaucoup insisté, notamment dans la Jeune Garde, sur le côté un peu milicien, hein, au sens des milices privées. qui se font justice elles-mêmes, notamment à Lyon, etc. Il va regarder aussi les sigles qui sont utilisés, le code couleur. Et on sait que les Antifa ont un code couleur et la Jeune Garde avait un logo. Bref, s'il voit que non pas tous les éléments sont réunis, mais qu'un certain nombre d'éléments sont réunis, même si le nom est différent, hein, vous m'entendez,
est-ce que c'est formel ou informel ? Est-ce qu'ils ont besoin de recréer une association juridique ?
Non, absolument pas, je vous ai dit. C'est-à-dire, on parle d'une association de fait ou déclarée. C'est-à-dire que même s'ils ne recréent pas une association, s'ils fonctionnent comme le ferait une association sans avoir déclaré quoi que ce soit, concrètement, si demain la Jeune Garde recommence ses ratonnades, réutilise un code couleur qui est après le même et avec les plus ou moins les mêmes membres, plus ou moins les mêmes dirigeants, alors ceux qui se seront rendus coupables de tels agissements, le simple fait de refaire leurs actions, en cours, le délit de reconstitution de ligue dissoute, c'est un délit assez lourd, puisque si ma mémoire est bonne, c'est une peine de prison, j'essaie de retrouver exactement, il me semble que c'est 3 ans d'emprisonnement, et une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tout cas, voilà, c'est une sanction importante, lourde. Elle est rarement prononcée pour une raison toute simple, c'est que des dissolutions d'associations, il n'y en a pas tous les jours, si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, j'ai bien vu que la Jeune Garde essayait, en tout cas, un entourage proche de la Jeune Garde, de cette mouvance Antifa, essaie de reconstituer. Vous parliez d'une une structure qui s'appelle
Éteignons
la flamme, avec une botte qui éteint. En réalité, si vous voulez, ça pose une question plus large, qui est celle du mouvement Antifa. Parce qu'en fait, tout le mouvement Antifa est un copier-coller de la Jeune Garde, si vous voulez. La Jeune Garde, c'est la pointe la plus avancée, la plus milicienne et la plus visible des Antifa. Mais les Antifa, il y a des groupements Antifa partout et qui fonctionnent de la même manière que la Jeune Garde. C'est-à-dire que concrètement, demain, vous avez un rassemblement de Marine Le Pen ou d'un autre parti de droite à tel endroit. Ils viennent, ils font une contre-manifestation, ils en ont le droit, très bien. Et puis, accessoirement, ils traquent aussi les militants, on le sait bien, aux abords des meetings. Parfois, ils leur tombent dessus. Voilà, ils font des actions de rue, des actions violentes. Mais ça, si vous voulez, en fait, c'est tout le mouvement Antifa qui devrait être dissous. Et on peut dissoudre le mouvement Antifa. On peut. On a déjà, d'ailleurs, dissous certains groupements Antifa. Ce qu'il faudrait, c'est à la fois les dissoudre et en même temps les classer terroristes.
Parce qu'en fait, il y a une forme de... Certains politologues, je pense notamment à Jean-Yves Camus, ont pour principale théorie, alors là, je sors un petit peu du domaine juridique, que la dissolution des groupes, finalement, est assez nuisible dans le but de
pouvoir... Pour les renseignements généraux.
Exactement.
Parce que, si je termine votre phrase, cela signifierait qu'on peut plus difficilement les identifier. C'est vrai, et en même temps, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, par les moyens informationnels, par les technologies très avancées des services de renseignement, ils peuvent consulter, moi je l'ai vu pour des dossiers de dissolution, tout, c'est-à-dire les boucles Telegram, vos mails, tout, ils ont accès absolument à tout, vous n'imaginez pas. Donc en réalité, même si demain, vous voyez, la Jeune Garde est dissoute, ça ne les empêche pas d'avoir une discussion Telegram, donc en fait, ça n'empêche pas les services de renseignement de continuer à épier un petit peu. Et en même temps, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi un impératif. Jean-Yves Camus disait ça pour les groupes d'extrême droite.
Notamment.
Mais parce que, en l'occurrence, si ça permettait de les surveiller, c'est vrai, mais je pense que la violence d'extrême droite, elle est incomparable à la violence d'extrême gauche. Je sais bien qu'on a une opération d'intoxication fantastique pour nous expliquer que l'extrême droite agresse ou tue 10 fois plus que l'extrême gauche. On met les milices turques là-dedans, accessoirement. Voilà, on met une espèce de grand foutoir général. Il y a Paul Sugy qui a fait une très belle intervention là-dessus, d'ailleurs, sur le service public, pour expliquer à quel point cette méthodologie était grotesque, mais vraiment grotesque. Hein. Tout est d'extrême droite à ce moment-là, si vous voulez. Donc même Daesh devient d'extrême droite.
Oui, et puis après, il faut évidemment séparer ce qu'est un crime politique. En l'occurrence, la mort de Quentin Durand s'en rapproche assez. Alors que, par exemple, si on prend l'affaire Le Priol à l'inverse, elle ressemble beaucoup moins, justement, à une affaire de mort politique.
Ou même ce qui s'est passé à Châteauroux, puisque là, nous sommes dans l'Indre. Et à Châteauroux, un ancien candidat, mais dans les années 80-90, je ne sais plus exactement l'histoire, il y a eu des tirs avec...
Un ancien candidat du FN en 1993,
c'est ça.
Qui a tiré contre la police.
C'est ça, qui a tiré contre la police, qui manifestement était un peu déséquilibré. Alors là, étrangement, personne ne retient déséquilibré, mais encore une fois, comment vous dire, quel est le mobile? C'est ça ce qu'on veut regarder. Est-ce que ce délit, voire ce crime, s'il y avait des gendarmes qui étaient blessés ou tués, plutôt tués sur un crime, est-ce qu'il a une motivation politique ? Mmh. C'est comme ça qu'on répertorie les violences politiques. C'est pas simplement de voir si, quelle était la carte d'adhérent de cette personne. Vous avez mentionné aussi tout à l'heure le meurtre de ce rugbyman rue des Canettes, je crois, dans le 6e arrondissement de Paris. Mais est-ce que la motivation était politique ? C'est ça ce qu'il faut voir. Mmh. Ça me paraît être la méthodologie absolument de base. Mmh. Voilà. Pour Quentin, on a des éléments très concordants sur le caractère politique, sur les motivations politiques de ce meurtre. Voilà. Donc reste à voir maintenant si c'est un assassinat avec le caractère prémédité, etc. Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. En tout cas, il y a un jeune homme qui a été lynché mortellement. Voilà.
Surprenamment, des premières réactions de certains politiques et même du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a été aussi de cibler des groupes qu'on pourrait qualifier de droite ou d'extrême droite. D'abord, le Bloc Montpelliérain et une autre association, je crois, albigeoise, qui, pour le coup, sont de mouvance identitaire et dont la dissolution a été prononcée. Et surtout, plusieurs membres de la France Insoumise et même des écologistes et d'autres membres de l'extrême gauche ont finalement proposé la dissolution du collectif Némésis.
De toute façon, je vais vous dire une chose, tout ça participe d'un grand contre-feu général. Je l'ai bien vu sur les réseaux, on est nombreux à l'avoir vu. Depuis la mort de Quentin, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la gauche et l'extrême gauche est tout azimut à essayer de traquer le moindre petit débordement, vous voyez ce qui s'est passé à Châteauroux ou autre, pour essayer d'y mettre une équivalence. Parce que toute la mythologie du mouvement Antifa et de l'extrême gauche, qui aujourd'hui d'ailleurs fait l'objet de je ne sais combien de reportages, pour nous expliquer qu'ils sont dans une posture défensive.
Oui.
Là, depuis un mois, je ne sais pas depuis combien de temps, ça fait 3 semaines que Quentin a été tué à peu près, on assiste vraiment à un effort désespéré de toute la gauche, et notamment la gauche radicale, pour essayer de renvoyer, c'est même pas de renvoyer dos à dos, c'est presque nous expliquer que la violence antifa, violence meurtrière, est une violence en réaction. Et c'est presque, c'est pas presque, c'est pour nous expliquer que c'est de la légitime défense. Oui. Et on nous dit antifa, c'est bien une réaction, c'est contre. Mais c'est ne pas comprendre ce qu'est le mouvement antifa, ce n'est pas comprendre, c'est ne pas vivre, moi, comme je l'ai vécu lors des élections étudiantes. Alors c'était sans doute plus doux, en tout cas à l'époque, et c'était certainement moins dramatique, évidemment. Mais ce sont des gens qui... Enfin, moi, ce qui est arrivé, malheureusement, pour Quentin, ne m'a pas surpris. Ça n'a pas surpris. Et aujourd'hui, on a tout un travail de sape, justement, depuis quelques semaines, depuis la mort de Quentin, pour mettre des équivalences. On a des spécialistes autoproclamés, qui, d'ailleurs, bien souvent, viennent sur les plateaux de télévision de BFM. Alors là, on ne leur demande pas leur pédigré. On apprend après qu'ils sont intervenus à l'Institut La Boétie, dans des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Là, étrangement, la neutralité s'efface complètement. On a des historiens qui peuvent, au demeurant, avoir qui peuvent être des historiens de qualité, mais qui se fourvoient complètement. Je pense notamment à Yann Chapoutot, qui nous expliquait que c'est ça, c'est-à-dire que le mouvement Antifa, et le mouvement Antifa aujourd'hui, serait, aujourd'hui et depuis l'origine, un mouvement en réaction, et donc finalement de légitime défense par rapport à une violence d'extrême droite qui, elle, serait excessive. Et encore une fois, toujours avec la méthodologie aussi trompeuse pour nous dire que l'extrême droite tue plus en mettant les milices turques et tous les mouvements nationalistes étrangers dans le lot des violences d'extrême droite.
Il nous reste une minute, Pierre Lantier, simplement sur la question de la dissolution du collectif Némésis. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible et envisageable au vu des éléments qu'il y a actuellement ?
Alors, c'est toujours problématique. Comme je dois faire en 1 minute, je serai assez rapide. La loi qui prévoit la dissolution administrative, qui est codifié l'article 212-1 du Code de la Sécurité intérieure, est une loi très puissante, très très puissante. Elle permet de facto de dissoudre assez largement un grand nombre d'associations politiques. Il y a un certain nombre de conditions, mais si vous voulez, c'est tellement subjectif. Par exemple, on peut dissoudre une association qui incite à la haine, qui incite à la discrimination. Vous voyez, le simple fait de dire « on veut instaurer une préférence nationale », c'est vouloir une discrimination, c'est-à-dire faire une distinction entre les Français et ceux qui ne sont pas Français. Et donc, si on appliquait à la lettre cet article 212-1, on pourrait inventer des dissolutions. L'article 212-1, c'est un article sur la dissolution qui est un article très puissant et de facto, on peut dissoudre, malheureusement, beaucoup d'associations. En l'occurrence ici, moi, je pense que le collectif Némésis, qui ne participe à aucune action, qui se contente de mettre la focale sur, en tant que féministe, sur un certain nombre de violences qui sont mises de côté par les féministes de gauche, il n'y a aucune raison de le dissoudre. C'est-à-dire, encore une fois, en l'occurrence, elle, cette association, elle ne fait peser aucun risque sur l'ordre public. Némésis n'agresse pas des gens dans la rue, il ne lynche pas mortellement. Voilà, ils interviennent dans les meetings pour montrer qui est Jean-Luc Mélenchon et montrer qui sont les gens de gauche. Accessoirement, quand les FMN intervenaient, quand il y avait des actions de gauche au meeting de Marine Le Pen, là, bizarrement, quand les gauches intervenaient et qu'ils étaient un peu réprimés par le service d'ordre, on disait « Regardez, c'est des violences politiques ». Là, quand Némésis veut faire la même chose et qu'elle a le malheur de passer par un service d'ordre, on dit « Ce sont des dangereux factieux ». Vous voyez, le deux poids, deux mesures, il est toujours total.
Merci beaucoup, Pierre Gentil.
Merci à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté et regardé peut-être cet entretien avec Pierre Gentil. Alors, un point important à savoir, c'est que vous le savez, si vous avez visionné cet entretien sur X ou sur YouTube, eh bien vous avez constaté que Pierre Gentil n'était pas en studio, que c'était à Argenton-sur-Creuse, que tout cela s'est passé. Je vais vous en parler dans un instant. Dans un instant, effectivement, donc Patrick Huiban nous rejoindra pour évoquer Israël, Iran, l'Europe part-elle en guerre. À 7h50, ce sera la chronique d'Alexis Poulain et tout ça, ce sera dans le grand entretien.
Ligne droite. Le grand entretien.
Alors, le grand entretien commence dans 3 minutes avec Patrick Huiban. Ne vous en faites pas, chers auditeurs, il sera bien là, simplement petit souci de métro. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais vous parler quand même un petit peu, justement, de Pierre Gentil, avec qui je me trouvais donc ce mercredi pour un reportage. Pourquoi suis-je parti à Argenton-sur-Creuse? Eh bien, c'est parce que c'est là que Pierre Gentil, donc, que vous connaissez peut-être, un avocat assez médiatique, souvent présent sur CNews, c'est là que Pierre Gentil se présente en tant que candidat à l'élection, aux élections municipales de cette petite ville de l'Indre. Alors, plusieurs problématiques qui existent là-bas. D'abord, la ville est tenue par la gauche depuis des décennies, et plus particulièrement par la famille Sapin, qui a développé une véritable mafia dans tout ce coin-là. Alors, j'exagère un petit peu en disant mafia, hein, mais c'est juste qu'elle tient tous les services publics, elle va tenir finalement, en fait, un petit peu toute la mairie et les communes alentours. Ça, c'est le premier point, donc une gestion socialiste, ce qui veut dire beaucoup de dettes, d'un autre côté, et des impôts locaux élevés, d'un autre côté, problème dans, encore une fois, une ville de l'Indre de 4800 habitants, eh bien c'est le souci de l'insécurité, insécurité qui est de plus en plus présente dans la ville et contre laquelle, eh bien, les socialistes ne veulent strictement rien faire par idéologie. Donc tout ça, ce sera bien sûr publié très bientôt sur les réseaux sociaux de Ligne Droite, que je vous invite vraiment à suivre, donc sur Instagram, sur X, voire même sur TikTok pour les plus téméraires d'entre vous. Tout cela sortira donc dans les jours à venir, probablement d'ici la fin de la semaine prochaine. Et également, justement, grâce à vos dons et grâce à tout ce que vous faites pour nous, eh bien, on va réussir aussi à avoir des reportages de Maëlys Clozel, qui travaille dessus, qui est elle aussi souvent sur le terrain. Tout cela vous sera proposé très rapidement. Je vous annonce aussi en avant-première que demain sortira un reportage sur la ville d'Hénin-Beaumont, donc aux élections municipales, où nous avons rencontré donc le maire Steve Briouat pour voir si une ville gérée par l'ERN, c'était une ville bien gérée. Mais tout de suite, nous passons au cœur du grand entretien. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Patrice Huiban. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais laisser pour cet entretien Magda Dautefeuille prendre la main sur ce sujet. Israël, Iran, l'Europe part-elle en guerre?
Bonjour Patrice Huiban.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des conflits, notamment en Iran. L'Europe est-elle en train d'être entraînée dans une nouvelle guerre? Et on va essayer donc de comprendre d'abord déjà l'origine de toute cette escalade entre Israël, les États-Unis, l'Iran. Ensuite, le rôle que pourrait jouer l'Europe dans cette crise, s'il existe un risque d'élargissement du conflit. Et donc, pour commencer cet entretien, on peut commencer déjà par comprendre l'origine de l'escalade entre Israël et les États-Unis. Et pour cela, je vais vous donner une citation, une déclaration de Marco Rubio qu'il a faite au Capitole devant les journalistes. Et il a dit « Nous savions que si l'Iran était attaqué, il s'en prendrait à nous sans attendre. Donc, il a bien expliqué que les services américains avaient acquis la conviction que si l'Iran était attaqué ce qu'ils estimaient très probable, ils frapperaient immédiatement donc des cibles américaines. Et donc, si les États-Unis ont attaqué l'Iran, c'est parce qu'ils supposaient donc qu'en cas d'attaque israélienne, les Iraniens attaqueraient les États-Unis. Et donc, finalement, est-ce que Israël n'aurait pas entraîné les États-Unis dans cette guerre? Enfin, autrement dit, est-ce que les États-Unis ont frappé l'Iran par solidarité stratégique avec Israël ou dans une logique plutôt donc de frappe préventive pour éviter d'être eux-mêmes visés?
Bah écoutez, l'Iran est une menace, on va dire, quasi existentielle pour Israël et pour l'Occident depuis déjà des décennies. Et on voit bien que tous les dispositifs et tout ce qui a pu être mis en œuvre par l'AIEA, donc l'Agence internationale de maîtrise de l'énergie atomique, donc toutes ces tentatives ont échoué, les sanctions économiques ont échoué, et on sait bien que l'Iran continuait à avancer sur son programme nucléaire. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, les mesures, on va dire, diplomatiques ont leurs limites.
Oui, donc finalement, les frappes des États-Unis étaient plus des frappes préventives, c'était pas...
Oui, c'est-à-dire
qu'ils savaient qu'ils allaient être
attaqués. Alors, l'Iran est très nationaliste, mais c'est aussi un régime totalitaire et impérialiste. C'est-à-dire qu'ils veulent exporter la révolution iranienne, donc l'islamisme chiite, je dirais non seulement dans la région, mais au-delà. Donc, face à un régime, si vous voulez, totalitaire, au bout d'un moment, les démocraties ne doivent pas être des régimes de faiblesse. Et effectivement, on peut estimer que c'est une frappe préventive. Alors certes, sans l'aval de l'ONU, parce que je vous rappelle que la guerre est prohibée par l'ONU, il y a deux motifs légitimes pour... mener une guerre selon l'ONU, c'est la légitime défense, l'article 51 de la charte de l'ONU. Et puis, c'est une guerre qui va recevoir l'aval du Conseil de sécurité. Mais si, donc il n'y a pas une autorisation à court terme légale, mais si on dézoome et on prend un peu de recul, on peut estimer que pour Israël et l'Occident, c'est quelque part de la légitime défense. Puisque l'Iran ne cesse d'attaquer les intérêts occidentaux et l'Occident depuis déjà plusieurs décennies.
Et donc, au niveau de la France qui affirme agir à ce moment-là plus défensivement, mais qui en réalité se trouve déjà impliquée dans cette guerre, puisqu'on a déployé, par exemple, en Méditerranée, le porte-avions Charles de Gaulle. Enfin, voilà, il y a eu un déploiement militaire. Mais d'un autre côté, l'Iran a mis en garde toute implication militaire des pays européens qui seraient considérés à ce moment-là comme un acte de guerre avec complicité avec l'agresseur. En fait, est-ce que la France est réellement non belligérante dans ce conflit ou on peut considérer
pour différentes raisons. Tout d'abord, comme je l'ai dit, l'Iran attaque, a du sang français sur les mains depuis des décennies. Les attentats du Drakkar en 83 au Liban, tous les attentats contre les intérêts occidentaux et nos alliés depuis des années. Donc, je dirais que la France doit être solidaire de ses alliés. Et quand on voit un président de la République qui appelle, je dirais, à la désescalade, à la négociation, non, face à un régime totalitaire, au bout d'un moment, quand on a épuisé toutes les solutions diplomatiques et les sanctions économiques, je pense qu'il est légitime, effectivement, d'empêcher par tous les moyens l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. En fait, c'est ça le nœud du sujet.
Oui, finalement, Macron est relativement... on pourrait dire, est-ce qu'il est incohérent du fait que, par définition, on ne peut pas être neutre si, en fait, on est allié des États-Unis? On ne peut pas être neutre dans ce conflit.
Oui, et puis surtout, n'oublions pas que la base française aux Émirats Arabes Unis a été attaquée. Donc il y a non seulement une logique de solidarité vis-à-vis d'Israël, qui est la seule démocratie du Moyen-Orient, et vis-à-vis des États-Unis et nos alliés, mais aussi on a été directement attaqué une nouvelle fois depuis la création de ce régime en 1979, par les fameux proxys, par le Hezbollah, par des mouvements et des groupes interposés. La France est régulièrement la cible de ce régime.
Oui, mais la stratégie de Macron, donc de mener une politique indépendante, il s'aligne sur ses alliés. L'idée, c'est que Macron, il accuse l'Iran d'être responsable des escalades tout en critiquant ses frappes américaines et israéliennes comme contraires au droit international. Sa position, c'est le soutien sécuritaire aux alliés, mais il a un discours diplomatique de désescalade. Par exemple, Macron, il prône la souveraineté européenne vis-à-vis de ces conflits.
Non, mais comme je disais, donc à court terme, effectivement, l'Iran n'a pas attaqué et il n'y a pas une validation du Conseil de sécurité. Mais si on regarde, si on prend un peu de recul, je répète, on est en légitime défense puisque l'Iran ne cesse d'attaquer les intérêts de l'Occident. Et face à un régime totalitaire et non pas nationaliste, c'est-à-dire qui veut exporter son modèle, je dirais, de par le monde et vis-à-vis de l'Occident, on ne peut pas négocier. Pour faire la paix, il faut être deux. Et face à un régime qui vous exècre et qui exècre les valeurs occidentales, face au danger, je dirais, que représenterait la détention de l'arme nucléaire par un pays, c'est un petit peu, si vous voulez, comme si Hitler avait eu l'arme nucléaire, donc c'est ou l'arme atomique à l'époque. Donc il faut tout faire pour que ce régime n'ait pas cette arme-là, puisque là, on rentre dans une logique de chantage, et on rentre dans une logique de soumission.
Oui, donc finalement, pour vous, c'est plutôt, entre guillemets, une bonne chose que la France, voire l'Europe, partent en guerre, donc entrent dans ce conflit.
En tout cas, qu'on soit solidaires, qu'on empêche un certain nombre de missiles d'atteindre, je dirais, nos bases et puis aussi le territoire de nos alliés. Et je rebondis sur la notion de souveraineté européenne. Non, il n'y a pas de souveraineté européenne. Le Conseil d'État, on ne peut pas... considérer que le Conseil d'État est un mouvement nationaliste, enfin je veux dire, c'est une entité administrative indépendante, et qui a rappelé en 2024 dans son étude annuelle sur la souveraineté que la souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à maîtriser son destin. Donc voilà, donc ce qui fait que comme il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas avoir de souveraineté européenne. La démocratie, c'est donc la capacité d'un peuple à maîtriser son destin, c'est l'article 2 de notre Constitution, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc il ne peut pas avoir de souveraineté européenne, il ne peut avoir que des coopérations entre des gouvernements et des nations souveraines en fait.
Oui, donc par définition, la souveraineté en fait, elle ne peut pas être partagée, en fait, elle est vraiment dépendante des États.
Exactement. Donc on est vraiment en Europe dans une logique intergouvernementale, c'est la coopération d'un certain nombre de nations, d'États qui restent souverains dans leurs prérogatives et qui se mettent d'accord en mode projet sur un certain nombre de sujets, sachant que la vraie question en Europe au niveau de la défense, c'est l'interopérabilité, mais ça on l'a déjà avec les normes OTAN, c'est-à-dire la capacité des armées européennes à agir, à interagir et à mener des opérations communes. On l'a vu à moult reprises, en Afghanistan il y avait plus de 20 États européens qui étaient impliqués. En Libye, il y avait la France et la Grande-Bretagne avec aussi l'appui des États-Unis. Donc ça marche parfaitement bien. Il y a des standards OTAN. Si vous voulez, un fantassin belge peut demander l'appui d'un chasseur-bombardier français. Enfin, tout ça est normé. On sait parfaitement travailler ensemble. Les systèmes d'information sont compatibles. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est 1. Dépenser plus dans notre défense. 2. Travailler avec des exercices interalliés pour faire en sorte que nos armées soient vraiment bien huilées et interopérables. Et en revanche, ce qui manque en Europe, si on veut être indépendant, en tout cas vis-à-vis des États-Unis, c'est d'avoir ce qu'on appelle les états-majors opératifs, c'est-à-dire des états-majors capables de mener des opérations d'envergure en mode interarmé, c'est-à-dire terre, air, mer. C'est ça ce qui nous manque, en fait. Voilà, donc les trois impératifs, c'est plus de moyens individuellement. Chaque État doit faire un effort supplémentaire, continuer à travailler à l'interopérabilité des forces et construire, pour être indépendant de l'OTAN, construire des états-majors dits opératifs.
Et justement, à ce sujet-là, c'était notamment face à la guerre en Ukraine que les dirigeants, que certains en tout cas dirigeants européens, évoquaient l'idée d'une défense à ce moment-là européenne, plus intégrée, voire du coup d'une armée européenne. En fait, est-ce que, une véritable défense européenne, en fait, n'est finalement pas possible sans États européens ?
Alors, oui, c'est pour trois raisons, si vous voulez. Donc, l'armée, c'est pas une fin en soi. L'armée, on disait avant, c'est le dernier argument des rois. Mais comme la souveraineté était transférée au peuple, c'est le dernier argument des peuples, en fait, l'armée. Pour défendre leur liberté, pour défendre un modèle politique qui est propre à chacune des nations. Donc, comme il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas avoir d'armée européenne, parce que l'armée est au service d'un destin politique, au service d'un peuple qui est souverain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est lié au premier point, il n'y a pas de politique étrangère européenne, puisque la politique étrangère d'un pays est le fruit de son histoire et de sa géographie. Donc les Polonais, historiquement, sont plutôt tournés vers l'Est, vers la menace russe. Nous, on est plutôt tournés vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique, vers le Sud, voire même on a une dimension mondiale par notre langue, par notre domaine maritime, par nos Outre-mer. Donc ce qui fait qu'on ne peut que ponctuellement être allié militairement face à une menace commune. Mais il n'y a pas de politique étrangère européenne. Et donc en 2003, refaisons le scénario de 2003. On fait comment? Puisque face à l'intervention américaine en Irak, vous aviez des pays comme l'Espagne, comme la Grande-Bretagne qui y vont. Il y a des pays qui sont opposés comme la France et l'Allemagne. Donc on fait quoi? Le porte-avions, un porte-avions comme le Charles de Gaulle, on coupe en deux, on fait comment? Et enfin, donc le troisième point, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en revanche, ce qu'on doit faire, c'est travailler à l'interopérabilité des forces et essayer d'avoir des états-majors capables, sans avoir recours aux États-Unis, de mener des grandes opérations d'envergure en mode interarmée, terre-air-mer.
Oui, d'autant plus que, par exemple, l'Espagne a déjà déclaré que pour eux, c'était non à la guerre. Nous, on est en train de se déployer militairement. C'est vrai que ce serait assez contradictoire, finalement, de partir sur une, on va dire, une souveraineté très européenne, alors que finalement, même au sein de l'Europe même, on n'a pas du tout les mêmes ambitions.
Si vous voulez, les alliances économiques sont stables dans le temps parce que tout le monde a intérêt au libre-commerce, ce qui fait que l'Union européenne, au sens économique, n'est pas vraiment remise en cause. Si vous voulez, le marché unique n'est pas vraiment remis en cause. On se plaint toujours que la Commission n'est pas assez ferme vis-à-vis d'un certain nombre de politiques commerciales extra-communautaires. Mais c'est assez stable, c'est comme l'ALENA, c'est comme le Mercosur. En revanche, les alliances politiques, puisque la politique étrangère d'un pays, comme je le dis, est le fruit de son histoire et de sa géographie, les alliances politiques ne peuvent être que ponctuelles. Vous voyez, donc on était à peu près d'accord sur l'Afghanistan, il y avait une vingtaine de pays européens. En revanche, sur la Libye, on n'était que deux. Vous voyez, donc là, pour le coup, les armées doivent rester européennes et à la carte, en fonction, en mode projet, en fonction des menaces, en fonction de nos intérêts respectifs. Parfois, il y a un alignement des planètes et parfois, il y a 2, 3, 4, 5 pays qui vont se lancer dans une coopération en matière d'armement et qui vont se lancer dans une opération militaire.
Oui, d'autant plus qu'on voit bien au regard de l'histoire que... Alors les alliances, c'est assez variable que finalement, il peut y avoir des changements, même pendant les guerres.
Exactement.
Donc, c'est pas forcément très stable. Chers auditeurs, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes avec Patrice Huiban, qui était Saint-Syrien, donc officier de l'armée de terre, qui est breveté de l'école de guerre, qui est devenu haut fonctionnaire et cadre, qui enseigne à l'économie de la défense à Sciences Po Paris. Il est aussi président du parti Nouvel Essor Français. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont « Vers un nouvel essor français » publié en 2024. Et nous parlons actuellement de l'Iran. Et à 7h50, nous aurons la chronique d'Alexis Poulain. Il y a 8h, le face-à-face. Voilà. Et pour revenir donc sur un point, ce serait... vous parliez de la dissuasion nucléaire. Donc, dans le contexte actuel, avec toutes ces tensions internationales de réarmement, donc la question de la dissuasion nucléaire revient beaucoup dans le débat. La France fonde d'ailleurs une grande partie de sa doctrine de défense sur cette capacité. Et donc, pour vous, est-ce que la dissuasion nucléaire reste aujourd'hui une véritable garantie de sécurité pour un pays comme la France ?
Oui, alors c'est, comme on le dit, c'est une arme de non-emploi. Après, il ne faut pas tout compter sur le nucléaire. Si vous voulez, il y a deux lignes Maginot dans l'état d'esprit de nos dirigeants aujourd'hui. C'est relativement inquiétant. C'est l'OTAN et le nucléaire. C'est-à-dire de dire, on ne sera jamais en guerre tout seul. Ce n'est pas la peine de mettre trop d'argent dans l'armée conventionnelle. Et on aura toujours des copains pour être avec nous. Ou alors, au pire, on a l'arme nucléaire. Non. Pourquoi ? Premier point, comme vous le dites, dans l'histoire, les alliances n'engagent que ceux qui y croient. Alors, il faut des alliés, évidemment. Mais on n'est jamais sûr... qu'au moment venu, quand les balles sifflent, si vous voulez, chacun regarde ses intérêts. Et donc, on n'est jamais certain que vos alliés seront présents. Surtout que l'article 5 de l'OTAN, du traité de l'OTAN, stipule que si un membre de l'OTAN est attaqué, vous devez être solidaire, éventuellement par des moyens militaires, mais c'est purement symbolique. Vous pouvez envoyer quelques dizaines d'hommes, vous pouvez envoyer quelques avions. Enfin, je veux dire, rien n'engage, rien... Enfin, c'est pas parce qu'un membre de l'OTAN est attaqué que la France serait entraînée automatiquement dans une guerre. L'histoire montre que les alliances sont régulièrement non tenues, sont retournées. L'Italie en 14 n'est pas rentrée en guerre avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et est rentrée en guerre au niveau du côté de l'entente en 15. Je dis nous-mêmes en mars 1940, on avait, je dirais, signé un accord avec les Britanniques disant qu'on ne ferait pas d'armistice et de paix séparée, enfin, en tout cas d'armistice avec les Allemands, et on l'a fait. Donc, je veux dire, un homme d'État et non pas un politicien, c'est quelqu'un qui prépare le pire en espérant le meilleur. Et préparer le pire, c'est se retrouver tout seul dans une guerre de haute intensité face à un ennemi comparable. Rappelez-vous les Malouines en 82, les Britanniques qui sont pourtant un allié traditionnel des États-Unis, ils se sont retrouvés tout seuls. Les Américains n'étaient pas là, et voire même au départ presque pour l'Argentine. Donc le premier point, donc voilà, c'est l'idée qu'on ne pourrait jamais se retrouver seul dans une guerre, sachant que l'histoire n'est pas linéaire, mais est faite de surprises stratégiques. Bon, il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. Et deuxième point, effectivement, c'est le nucléaire. Sachant que la plus petite charge de l'armée française, c'est, tenez-vous bien, 100 kilotonnes. Pour vous donner une échelle, Nagasaki, Hiroshima et Hiroshima, c'est 15 et respectivement 15, enfin en tout cas 15 et 20 kilotonnes. Donc, imaginez, a-t-on l'assurance qu'un président français, même si les intérêts de la France, les intérêts vitaux, est attaqué, au regard de l'histoire et de l'humanité, oserait appuyer sur le bouton avec au moins 400 000, 500 000 morts, essentiellement des civils ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, certes, il faut compter sur il faut des alliés, certes, il faut maintenir l'arme nucléaire, mais il faut surtout une armée conventionnelle, c'est-à-dire une armée puissante qui est elle-même dissuasive. Si vis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre.
Oui, bah, c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. Est-ce qu'au fond, cette dissuasion, elle repose vraiment sur une capacité réelle d'emploi ou bien en fait, personne n'oserait franchir le seuil justement de...
Bah oui, parce qu'on a abandonné les charges tactiques, les missiles Pluton, vous savez, jusqu'aux années 90. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est même pas le petit marteau qu'on a. C'est tout ou rien, si vous voulez. Puis si on lance 100 kilotonnes, c'est la plus petite charge. Vous voyez les dégâts que ça peut faire. Donc oui, il faut de nucléaire. Je serais même tenté de dire qu'il faudrait développer de nouveau des armes tactiques et d'armes, ce qu'on appelait à l'époque d'ultime avertissement. C'est-à-dire des dégâts colossaux, mais je dirais pas équivalents à 100 kilotonnes. Donc il faut l'arme nucléaire. Mais à côté de ça, il faut surtout une armée conventionnelle extrêmement entraînée, robuste, avec un minimum de stock et avec surtout beaucoup de réservistes.
Oui, donc est-ce que pour vous, du coup, est-ce que vous pensez du coup à ce moment-là que c'est possible pour encore revenir un peu sur le sujet? Alors moi, j'ai... Enfin, là-dessus, on en a pu en parler, etc. Mais l'idée de l'Union européenne, enfin de faire un, on va dire une sorte de souveraineté européenne, même si tous les pays seraient pas en accord. En fait, certains évoquent la dissuasion européenne, donc la France qui pourrait partager ou mutualiser la protection nucléaire. Est-ce que vous pensez que ça c'est possible ou c'est complètement...
Alors la vraie question, c'est qui appuie sur le bouton. De toute façon, avec 100 kilotonnes, la dissuasion nucléaire française a mécaniquement une dimension européenne. Vu sa puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mécaniquement, alors après, est-ce qu'on fait des conciliabules? C'est de la communication tout ça. On est habitué avec Emmanuel Macron à beaucoup de communication. C'est de la com. En fait, ce qui est important, et ça, pour l'instant, on a des garanties là-dessus, c'est celui ou celle qui appuiera sur le bouton, c'est le président ou la présidente de la République française. Donc c'est ça qui est important. Donc ça, pour l'instant, c'est pas remis en cause. Après, c'est de la com, qu'on discute effectivement de scénarios, qu'on fasse des exercices avec nos alliés. Pour ça, oui, c'est très bien. Enfin, c'est pas véritablement fondamental. C'est plutôt souhaitable. Mais la vraie question, c'est une fois de plus, qui appuie sur le bouton.
Oui, ça, qui se rend responsable donc d'un tel acte, d'un problème nucléaire. Mais est-ce qu'après ce jour arrivera vraiment? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas qu'une dissuasion?
Le principe, en tout cas dans la conception française, c'est une arme de non-emploi.
Oui.
Donc c'est une arme, comme on l'a dit, dissuasion. Mais il ne faut pas compter que là-dessus. Il faut d'abord avoir, je répète, une armée conventionnelle digne de ce nom. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a la chance d'avoir une industrie de défense qui est complète. On est un des rares pays au monde à être souverain, capable de fabriquer tous les systèmes d'armes dont nos armées ont besoin. Mais le problème, c'est un petit peu de la haute couture, si vous voulez. On est dans une industrie de défense en mode haute couture. Il y a des petites séries, on n'a pas beaucoup de stock. Et on n'a pas beaucoup d'effectifs, si vous voulez. On a 200 000 hommes, c'est très bien, mais il faudrait non pas 40 000 réservistes, mais 400 000 réservistes. Et il faudrait plus de moyens. Vous savez, Israël, certes, ils sont en guerre en permanence, mais c'est même pas la taille des pays de la Loire, c'est 20 000 km², c'est 10 millions d'habitants. Ils ont 10 fois plus de chars de combat, on en a 200, ils en ont plus de 2000 d'équivalent au Leclerc, si vous voulez. Donc vraiment des armes de qualité. On a 200 avions de chasse, ils en ont plus de 300. Donc on n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire que si on veut se préparer non pas à une guerre d'intervention, on va dire, en mode Second Empire, si vous voulez, si on se préparer à une guerre symétrique, on a une armée échantillonnaire complète, certes, on a tout de la palette, mais on n'a pas de profondeur en termes de volume de stock et puis en termes d'effectifs parce qu'il nous manque des réservistes.
Oui, c'est ce qu'on disait cette semaine justement à notre antenne. Il a été signalé qu'en fait, si on avait lieu un conflit de haute intensité, on tiendrait seulement quelques semaines.
C'est ça.
Et alors qu'en fait, en face, du coup, en fait, avec l'usure, on n'arriverait pas à tenir.
Ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, en plus, vu le contexte budgétaire de la France, c'est pas un dilemme à se dire, est-ce qu'on investit dans notre assurance survie, puisque ce qu'on a de plus précieux à défendre dans notre démocratie, ce sont nos libertés. On n'a pas à choisir entre notre assurance survie et financer l'hôpital, l'école et les services publics du quotidien. Puisque grâce à notre industrie de défense, qui pour le coup, là encore, fonctionne bien et n'est pas délocalisée, tous les économistes vous disent que si vous mettez 1 euro dans les dépenses d'équipement dans l'armée française, ça rapporte entre 1,3 et 1,9 euros à l'économie française. Ce qui fait que, paradoxalement, financer l'armée, ça permet de financer l'hôpital et l'école. Donc il n'y a pas de dilemme en fait. Même dans le contexte aujourd'hui, c'est même un levier de réindustrialisation, puisque vous savez que l'industrie de défense, c'est quoi? C'est en gros 3% des entreprises françaises qui déclarent un crédit impôt recherche, mais qui représentent près d'un quart des dépenses de recherche-développement du privé et près d'un quart des chercheurs. Ce qui fait que ça a un effet levier, surtout que 90% des entreprises de défense sont duales, comme Dassault. Ils font à la fois du civil et du militaire. Donc toute l'innovation que vous mettez dans le militaire, dans des technologies de très 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 haut niveau, eh bien ça va perler, ça va irriguer et ça va permettre à la France de se réindustrialiser. Vous savez, c'est le modèle américain. Hein. Les Américains, en fait, ils ont une économie florissante parce qu'ils investissent beaucoup dans la défense, ce qui permet des innovations de rupture.
Ben merci beaucoup, ça on va pouvoir revenir sur ce point à 8h pendant le face-à-face, mais restez avec nous tout de suite, on va voir la chronique d'Alexis Poulain.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Alexis Poulain.
Bonjour. Alors, ce matin je voulais vous parler de deux choses, à la fois la spirale qui se passe actuellement en Iran avec le Charles de Gaulle qui arrive samedi selon la ministre des Armées, Catherine Vautrin, et puis surtout le gouvernement ici qui essaye de rassurer les Français sur les répercussions de cette guerre en Iran, avec notamment la hausse des prix à la pompe, mais aussi l'inflation qui risque d'arriver et de faire très mal. C'est Roland Lescure, ministre du budget, qui se veut rassurant, hein, expliquant qu'il n'y aurait pas de hausse des prix, du moins les prix seront contenus. Et on voit bien qu'il y a là une petite goutte de sueur sur le front d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, à voir si on ne risque pas d'arriver avec une explosion des prix, pas seulement à la pompe, mais aussi de toutes les matières premières et les prix en grande surface notamment, puisque le détroit d'Ormuz, certes, ce n'est pas forcément des produits destinés à la France, ni même les hydrocarbures, mais l'impact sera une inflation mondiale et un blocage du commerce international qui risque de se prolonger compte tenu des objectifs de guerre plutôt flous, en fait, donnés par Donald Trump. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut croire Roland Lescure et se rassurer, ou est-ce qu'il faut se ruer sur les rouleaux de papier toilette comme en cas de crise et les pompes à essence, comme c'est le cas à chaque fois. Il y a eu une réunion de crise à Bercy avec les différents distributeurs, notamment pour assurer qu'il n'y aurait pas de hausse calamiteuse des prix dans les semaines qui viennent. Maintenant, la question, c'est comment tout ça peut bien se passer, sachant qu'on a quand même un brouillard de la guerre assez énorme qui entoure le Moyen-Orient sur les différentes opérations, mais aussi sur le succès des opérations israélo-américaines en Iran et sur la réponse iranienne qui paraît être d'ampleur, contrairement à ce qu'avaient imaginé les grands stratèges. Donc voilà un peu le risque qui nous fait face dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup Alexis Poulain. Effectivement, l'impact va être assez direct en France. On voit d'ailleurs que le prix du carburant est en train d'exploser.
Déjà le cas, ouais.
Oui, c'est déjà le cas. Surtout que là, voilà, 90% des pétroliers sont bloqués, enfin des arrivées de pétrole sont bloquées à cause du détroit d'Ormuz. Mais voilà, donc en fait, ça impacte finalement directement les Français, outre tout ce qu'on pouvait dire, même sur l'armée. Sur économiquement le fait qu'il fallait se préparer à la guerre, en fait on est direct sur un impact. On voyait même ce matin d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu le voir, que en fait ce problème impactait aussi directement les syndicats même agricoles, puisque le prix du gaz a augmenté de 85% depuis le début de la guerre avec l'Iran. Donc pour vous c'est alors... aussi
C'est tout est lié de toute façon, à la fois les choix délétères de la Commission européenne, la guerre du gaz. Je ne sais pas si vous avez vu aussi la Commission qui demandait gentiment à Volodymyr Zelensky de rouvrir le gaz venant de Russie par les pipelines ukrainiens, avec un refus catégorique de la part de Zelensky, qui veut s'attaquer même à Viktor Orban. Et puis derrière, le fait que l'Europe n'est pas un continent qui est assis sur des réserves d'hydrocarbures. et les seuls producteurs d'énergie qui peuvent envisager quand même une certaine indépendance sont les Français avec le parc de centrales nucléaires, mais tenu par le marché unique de l'énergie. Et c'est le prix du gaz qui fait le prix de l'énergie. Donc peu importe que nous ayons de l'électricité bon marché, avec le marché unique de l'énergie européen, les prix vont exploser, ce qui va sans doute amener davantage de faillites, de difficultés pour les PME, mais aussi pour les grandes entreprises. Et aujourd'hui, un des grands sujets va être effectivement la recherche d'approvisionnement énergétique, sachant qu'il n'y aura pas assez de GNL américain pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que le chancelier allemand Friedrich Merz a très bien compris. Il était le premier dans le bureau de Donald Trump à la Maison-Blanche, sans doute pour demander un approvisionnement prioritaire en matière de gaz et de pétrole américain. On a affaire quand même à un moment particulier de l'histoire où les gens qui gouvernent ne devraient pas être là à leur place. Parce que c'est un moment chaotique où il faut prévoir, il faut être stratège. Et on a des gens qui ont choisi des idéologies, notamment le fait de faire de la décarbonation à tout va. L'objectif 2035 de voitures électriques est tombé à l'eau. Enfin, tout ce qui était de l'ordre du choix totalement idéologique et fou, d'une certaine mesure, est en train de précipiter l'économie européenne vers une faillite assurée, sachant que nous n'avons pas cette ressource énergétique qui était là. Et puis, l'explosion des prix du pétrole, c'est une bonne nouvelle évidemment pour les Américains, c'est une bonne nouvelle pour Vladimir Poutine aussi, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les Européens. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Et je pense que même si Emmanuel Macron se voulait le leader du monde libre et défenseur de l'Ukraine, il n'a pas vu venir l'attaque américaine sur l'Iran qui est en train de totalement recentrer à la fois les ressources de l'OTAN mais aussi toute la géostratégie mondiale et les alliances, là où lui finalement se retrouve à nouveau à la traîne avec les autres vassaux européens, Keir Starmer, Friedrich Merz et tous ceux qui ne sont pas prévenus quand les Américains frappent le matin un régime souverain comme l'Iran.
Merci beaucoup Alexis Poulain. Donc dans un instant, nous allons passer au face-à-face. Mais avant ça, Radio Courtoisie ne vit que grâce à vos dons. Alors Arnaud, comment pouvons-nous donner ?
Vous avez tout à fait raison Magda. Vous êtes notre seule ressource financière. Donc je vous invite à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou bien encore d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. C'est très important et on compte sur vous. Merci d'avance. Et on passe au face-à-face, Magda, peut-être ?
Oui, mais on passe au face-à-face.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors, 1, 2, voilà. Merci Arnaud de me redonner le micro, c'est très aimable de votre part. Je vous rejoins. Bonjour Alexis Poulain et rebonjour donc Patrice Huiban. On parlait un petit peu des intérêts français justement dans cette région parce que finalement on se retrouve effectivement, vous l'avez bien dit, embarqué dans un conflit qui n'est à l'origine pas le nôtre et qui est lancé par Israël puis suivi par les États-Unis selon les informations qui sont disponibles et donc la mécanique des alliances fait qu'on est sur le terrain. D'un autre côté, le gouvernement libanais a appelé, on l'apprenait cette nuit, la France à agir justement pour s'opposer à l'impérialisme, on va dire, israélien dans le sud Liban. C'est-à-dire que pour rappel des faits rapidement, après l'attaque d'Israël contre l'Iran, l'Iran a riposté sur Israël et le Hezbollah en a profité, la branche armée du Hezbollah en a profité pour faire des frappes sur Israël. Israël en profitant de son côté pour occuper à nouveau du territoire libanais. On parle même d'annexion dans certains milieux de la droite religieuse israélienne, donc une partie du Liban. Le Liban appelle la France à l'aide. Patrice Huiban, est-ce que c'est déjà dans les intérêts français, effectivement, d'être présent auprès de son allié historique qu'est le Liban ? Et si oui, comment est-ce que la France peut être d'une certaine façon l'intermédiaire entre le Liban et Israël à l'autre bout de la Méditerranée?
En fait, la vraie question, c'est oui, il faut être solidaire de Liban, c'est un allié historique. Le problème, c'est quel est le poids, je dirais, de l'État libanais. Donc aujourd'hui, c'est un État sans État, c'est un pays sans État, et donc on voit bien que c'est plutôt le Hezbollah qui détient les clés de ce pays. Donc même si on va aider d'une manière ou d'une autre les talibanais. Est-ce que vraiment l'argent et les moyens vont arriver au bon endroit? J'en doute quelque peu. Et concernant Israël, bon, bah, mettons-nous à leur place. Ils sont attaqués par le proxy de l'Iran, qui est le Hezbollah. Et donc, c'est un pays qui n'a pas de recul stratégique, si vous voulez. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est même pas la taille des Pays de la Loire, c'est 20 000 km². Donc, pour limiter ces attaques, ils ont besoin, effectivement, d'établir une zone tampon. Donc, la vraie question, c'est de permettre à l'État libanais de reprendre le contrôle de son territoire via une armée qui soit, je dirais, non pas à la botte du Hezbollah, mais à la botte, enfin, en tout cas, aux ordres de l'État libanais. Donc, la vraie question, c'est la reconstruction d'un État libanais souverain, fort, et qui assume ses fonctions de base régaliennes.
Alexis Poulain, justement, sur ce même sujet, effectivement, en l'occurrence, c'est Israël qui vient d'être agressé par le Hezbollah. D'un autre côté, effectivement, il y a cette occupation de territoire libanais et frappe d'ailleurs même contre des civils libanais. Est-ce que, selon vous, on vous sait très critique de, on va dire, de tous les impérialismes, est-ce que, selon vous, la France doit couper le lien avec Israël et quelque part embrasser la cause libanaise, ou est-ce qu'on doit se placer plutôt de manière peut-être plus gaullienne, en puissance intermédiaire, en équilibre?
De toute façon, oui, la France devrait être une puissance d'équilibre dans la région. Elle ne l'est plus depuis longtemps, depuis Nicolas Sarkozy. Et clairement, les promesses d'Emmanuel Macron vis-à-vis du Liban n'ont pas été tenues. Et je pense que les Libanais n'attendent plus rien de la France.
En l'occurrence, ils ont quand même appelé Emmanuel Macron à justement être l'intermédiaire. Donc ils attendent sans doute encore quelque chose de la France.
Par principe, mais j'imagine que depuis l'explosion du port de Beyrouth, les Libanais attendent toujours les promesses et ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron. Et puis, le problème libanais reste évidemment celui du Hezbollah, hein, ces milices infiltrées chiites qui continuent d'utiliser le Liban en base arrière et font en sorte de pilonner Israël. Toute la question, c'est la question du mouvement militaire et l'armée israélienne qui entre au Liban. Pour combien de temps? Est-ce qu'il est question d'une invasion, d'une annexion? Personne n'a les vrais mots. Vous savez que dans cette région du monde, aucune frontière n'est respectée. Et comme vous le disiez, il n'y a pas vraiment de taille critique. Hein. On a affaire à des pays qui sont de la taille de département. Donc, évidemment, c'est sans cesse qu'il y a des échauffourées quand ce n'est pas la guerre chaude. Là, le choix d'avoir sorti l'artillerie lourde contre l'Iran va effectivement sans doute plonger la région dans une spirale et un moment particulièrement violent. Mais il n'y a pas de retour en arrière, clairement, côté israélien comme côté américain. Je crois que c'est la frappe stratégique ultime. Et si l'Iran ne tombe pas, alors je ne sais pas quel est le plan B.
Oui, mais alors sur cette question donc de ce conflit en général. Alors je parle du Liban, mais de manière générale, c'est Israël, ça a été établi, qui effectivement entraîne. Donc les États-Unis dans ces frappes, et les États-Unis qui renchérissent en essayant de faire tomber le régime iranien par la même occasion. D'un autre côté, en fait, on a l'impression que les arguments qui aujourd'hui poussent la France à suivre Israël dans certaines de ces guerres, ou même de manière générale dans les guerres d'agression qu'Israël subit, c'est plus un argument moral qu'un argument stratégique. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on a l'impression que les Israéliens sont pas forcément les alliés les plus, on va dire, les plus utiles et les plus intéressants et les plus stratégiques pour la France.
En fait, oui, on peut reprocher beaucoup de choses à Israël, mais dans des moments critiques, si vous voulez, on peut pas mettre sur le même plan, de mon point de vue, la seule démocratie du Moyen-Orient qu'est Israël, avec des régimes totalitaires ou des mouvements totalitaires comme l'Iran ou le Hamas qui est sunnite, si vous voulez. Donc au bout d'un moment, quel que soit ce qu'on peut reprocher à Israël, il y a des moments de vérité. Et là, pour le coup, le rôle de la France tout de même, tout en étant critique sur un certain nombre d'actions d'Israël, c'est quand même d'être solidaire avec, je répète, la seule démocratie du Moyen-Orient. C'est un petit peu Athènes, si vous voulez, face à la Perse ou face à un environnement où l'ensemble des populations, une bonne partie des États, pas tous, veulent la destruction de ce pays.
Mais en l'occurrence, est-ce que c'est pas justement un argument on va dire morale que de prendre Israël comme allié uniquement parce qu'il s'agit d'une démocratie.
Non, pas simplement, mais je répète que l'Iran est une menace pas simplement pour Israël. Imaginez si un jour l'Iran a l'arme nucléaire, sachant que ce n'est pas un régime nationaliste, c'est un régime impérialiste qui veut exporter sa révolution islamiste chiite dans la région et même au-delà. Donc on n'a pas le choix en fait. Et on a bien vu que ça fait depuis des décennies qu'avec l'AIEA, donc l'Agence pour internationale de maîtrise de l'énergie atomique, on voit bien que tout a échoué, que les sanctions économiques, comme d'habitude, sont contournées. Et les renseignements nous disent que le programme K1KA continue à avancer. Mmh. Donc on fait quoi au bout d'un moment? On en arrête le programme de façon, militaire pour le coup, ou on continue des sanctions économiques et des manœuvres diplomatiques qui vont aboutir au fait que l'Iran va détenir l'arme nucléaire. Voyez, donc là on est vraiment dans un moment de vérité. Et dans ce moment de vérité, c'est un petit peu comme si on comptait sur la SDN pour arrêter Hitler, si vous voulez.
Oui.
On a vu ce que ça donnait, l'invasion de l'Éthiopie en 35 par l'Italie fasciste, la montée des fascismes et du totalitarisme nazi. Donc je pense que au bout d'un moment, les règles internationales, effectivement, il faut les valoriser. Il faut les respecter au maximum, mais pour faire la paix, il faut être deux. Mmh. Alors, quand vous avez des régimes autoritaires qui pensent d'abord à leur intérêt, qui ne veulent pas exporter leur régime, bah, ça peut fonctionner. Quand vous avez un régime, je répète, comme le régime nazi totalitaire et impérialiste, forcément, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, on constitue leur ennemi, je dirais leur ennemi absolu, leur adversaire absolu, et ils veulent notre destruction d'une façon ou d'une autre.
Alexis Poulain.
Ouais, alors je crois que, enfin, on a entendu depuis des années que l'Iran allait se doter de l'arme nucléaire, etc., etc. C'est l'excuse sur une stratégie de réorganisation violente du Moyen-Orient avec une hégémonie israélienne qui est voulue par les Américains et par Israël. La question qui se pose, c'est la façon dont tout cela est fait, avec quand même la question de la préparation et de la potentielle impréparation d'une opération qui déborde largement le cadre. Le détroit d'Ormuz, ça, je pense que à la Maison Blanche, tout le monde avait compris qu'il allait être fermé pour un temps. Maintenant, sur le fait que l'Iran ait répondu de manière aussi catégorique sur toutes les bases américaines des pays alliés autour de l'Iran, je ne sais pas si ça avait été prévu. Donc, le risque d'escalade, clairement, n'a pas été pris en compte. Et puis, il y a aussi la question du renseignement et de dire finalement l'Iran est un régime faible, il va tomber facilement et puis les Iraniens, après avoir été bombardés largement, se retourneront contre les Mollahs et hop, ce sera gagné. Là encore, ça paraît un calcul hasardeux. Il est même question maintenant que le Mossad et la CIA arment les Kurdes pour créer les conditions d'une nouvelle guerre civile.
Alexis Poulain, sur le fond quand même, est-ce que l'Iran représente une menace pour la France, pour l'Europe, pour l'Occident?
Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Pour Israël, oui. Maintenant, si vous mettez Israël dans l'Occident et vous pensez que derrière, il y aura effectivement une théorie des dominos, oui, c'était potentiellement une menace. La question, c'est est-ce que le régime iranien était sérieux dans les négociations avec les Américains? Et ça, on ne le saura pas puisque ces négociations étaient sabotées. Mais depuis longtemps, l'Iran représente une menace, mais il faut voir qui a joué avec l'Iran toutes ces années-là. C'est-à-dire que qui a tué Mossadegh, qui a fait en sorte que l'Iran ne soit pas un pays démocratique et non pas une théocratie, qui a hébergé l'ayatollah Khomeini? C'est la France.
Alors l'ayatollah Khomeini, voilà, pardon, je précise, il a été hébergé à la demande du Shah iranien. C'est quand même l'Iran qui a demandé à la France de le faire pour le tenir loin. Oui, non, mais c'est ça.
Attendez,
mais ce que je veux dire, c'est que c'était une demande iranienne.
Non, mais on l'a fait et on était très heureux d'avoir de nombreux contrats économiques avec l'Iran pendant des années. Donc, il faut voir comment la théocratie est arrivée en Iran. Et là, les belles démocraties occidentales ont peut-être à se regarder dans le miroir et à faire un peu d'autocritique.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une part de risque et que les démocraties sont loin d'être exemplaires. On n'a pas respecté le droit international à moult reprises au Kosovo en 1999. En Libye, on est allé au-delà du mandat de l'ONU. L'invasion de l'Irak, évidemment, en 2003, ce qui fait que le Sud global, finalement, a fini par se retourner vis-à-vis du modèle occidental. En revanche, pour revenir à l'Iran, je pense que le risque est quand même calculé, puisque je pense que Donald Trump n'est pas un néoconservateur en mode George W. Bush. Il ne veut pas reformater, il ne veut pas reproduire les erreurs des guerres calamiteuses d'Afghanistan et d'Irak.
Dans le sens où il ne veut pas d'occupation.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, transformer le régime iranien, qu'il soit démocratique ou pas, de manière à ce qu'il ne soit pas hostile à, comment dirais-je, à l'Occident, ce qu'on aurait dû faire en Afghanistan, que je connais bien, j'ai été déployé là-bas, on est allé trop loin, on aurait dû faire en sorte que l'Alliance du Nord renverse les talibans et ils se débrouillent, entre guillemets, il y a un régime afghan en fonction de la culture afghane, mais pas essayer de construire une démocratie occidentale au sein d'une population qui a des années-lumière des valeurs et des principes démocratiques. Donc je pense que, Donald Trump n'est pas un des conservateurs, il veut faire le service minimum. Deuxièmement, il y a un facteur d'espoir, une fois que cette crise, avec à la fois aussi le pogrom contre Israël en 2023 et puis la crise iranienne, une fois que tout ça sera passé, il y a quand même un facteur d'espoir avec les accords d'Abraham. Il y a quand même beaucoup de pays du Moyen-Orient qui enfin reconnaissent le droit d'Israël à exister et reconnaissent l'État israélien, les Émirats arabes unis, le Maroc, etc., en plus de historiquement la Jordanie, l'Égypte et autres. Donc, ce que je disais, c'est que les Américains, j'espère en tout cas, auront tiré les enseignements des guerres d'Afghanistan et d'Irak. Donc, voilà un petit peu, je pense que les risques sont assez calculés. Et puis après, en revanche, oui, il y a aussi une
politique... Mais ça reste une mutation, pardon, de l'impérialisme américain. C'est une mutation, je ne dis pas que c'est exactement le même, mais
bien sûr.
Il y a quand même cette idée d'être une forme de gendarme du monde, ou même d'aller pousser les intérêts américains, peu importe où dans le monde. Alors certes, c'est plus dans un objectif forcément démocratique. D'ailleurs, on l'a vu avec le Venezuela, où le système en place n'a pas changé. D'ailleurs, beaucoup d'analystes tentent à dire que c'est ce qui se passera aussi en Iran, où le régime ne tombera pas, mais où effectivement, ce sera la tête qui sera changée de manière plus favorable aux États-Unis, un petit peu comme c'est le cas au Venezuela. Dans le fond, ça reste une forme manière pour les Américains de débarquer dans un pays et de dire « j'impose ma loi là-bas ».
Mais bien sûr, mais de toute façon, Donald Trump, c'est la forme qui change. Hein. Oui. Ça a toujours été America First. Mmh. Hein. Donc, rappelez-vous l'affaire des sous-marins. Je veux dire, le coup de poignard dans le dos, c'était c'est le gentil Biden avec son sourire en coin qui nous l'a fait. Donc, qu'aurait-on dit, ça avait été Donald Trump. Non, je pense qu'en revanche, effectivement, Israël, il y a aussi, faut endiguer, il faut laisser les canaliser, puisque ce qui est un peu surprenant dans l'affaire, je dirais, de la bande de Gaza, c'est qu'ils avaient évacué en 2006 la bande de Gaza, donc il n'y avait plus de colonies juives, et l'attaque est venue de ce territoire qui était du coup autonome, alors qu'on aurait pu penser légitimement que ça aurait été plutôt les Cisjordaniens qui auraient eu enfin, intérêt, mais en tout cas qui étaient plus légitimes pour attaquer Israël, parce qu'effectivement, là, pour le coup, Israël ne respecte pas les accords de paix et continue la colonisation.
En l'occurrence, c'est vrai que le Hamas était quand même situé à Gaza et non pas en Cisjordanie.
C'est pour ça. Donc, et puis le paix est faible, etc. Ouais. Et du coup, le fait qu'il soit autonome dans cette bande de Gaza, ça leur a permis de s'armer et de préparer cette attaque, si vous voulez. Mais c'est un peu paradoxal, parce que là, pour le coup, Israël avait respecté les accords et avait totalement décolonisé ce territoire. Voilà. Mais en revanche, il y a un vrai sujet avec la Cisjordanie.
Oui. Sur Alexis Poulain, justement, cette mutation de l'impérialisme américain, est-ce que vous pensez que à l'avenir, c'est des opérations qui pourront se reproduire et qui agiront toujours dans l'intérêt des Américains, parce qu'une critique qui est très forte en interne au mouvement justement America Force, au mouvement MAGA, ce serait que ces guerres finalement ne favoriseraient même pas forcément les États-Unis.
Oui, alors je pense qu'effectivement Trump a fait un calcul par rapport à cette base MAGA en disant bon, une partie va comprendre pourquoi on le fait, et puis l'autre partie, eh bien je la perds à jamais et sera dégoûtée de la politique. Mais c'était déjà des gens qui étaient dégoûtés de la politique, donc finalement ça n'ira pas plus loin. Ça c'est son calcul. Après, pour ce qui est des États-Unis, il faut lire le document de stratégie nationale qui a été publié à la fin de l'année dernière, un document de 30 pages très politique qui explique quelle est la stratégie des États-Unis sous l'administration Trump et ce qui s'en suivra, c'est-à-dire comment assurer la sécurité des États-Unis et leur position hégémonique dans ce qu'ils appellent l'Occident global. Et pour ça, eh bien, il y a à la fois la puissance immédiate, hein, Amérique du Sud, Groenland, on l'a vu, hein, il y a eu le Venezuela, il y a eu le Groenland, et puis après, il y a tout ce qui est l'approvisionnement et la sécurisation en fait des ressources hydrocarbures notamment qui restent, mais aussi terres rares, etc. Avec potentiellement évidemment en toile de fond cet affrontement avec la Chine que tout le monde redoute, attend et voit comment tout ça est en train de s'organiser. Donc l'Ukraine n'est plus une priorité, l'Iran était clairement une priorité, le Venezuela aussi, le Groenland aussi. On va voir, le Groenland ce n'est pas terminé. Et donc il suit tout simplement cette stratégie. Et les États-Unis ont toujours eu, au-delà de cette stratégie trumpienne, la volonté d'être un pays hégémonique qui soit le numéro un, quel qu'en soit le prix. Mmh. Et ça depuis la Seconde Guerre mondiale.
Eh bien écoutez, oui, et puis il y a cette question, vous en parlez du piège de Thucydide qui prépare tout ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Alexis Poulain et Patrice Huyban. On n'hésitera pas, Patrice Huyban, à vous réinviter pour aborder les points qu'on n'aurait pas eu le temps, surtout avec l'escalade de ce conflit. À 8h37, nous aurons la chronique de Pascal Pointu. Dans un instant, le débattons-en avec Michel Hamas, où nous reviendrons sur le sujet de l'aide sociale à l'enfance, qui est responsable du scandale.
Et tout de suite, nous allons faire un petit rappel des titres de l'actualité avec Magda Dautefeuille qui décidément ne quitte plus ce plateau.
L'Iran affirme avoir touché un pétrolier américain dans le Golfe, indiquant le navire en feu sont les gardiens de la révolution dans un communiqué lu à la télévision d'État qui ne donne pas plus de précision. Parallèlement, l'Azerbaïdjan accuse l'Iran d'avoir frappé l'aéroport international de Nakhitchevan. La cour d'appel de Versailles a ordonné dans un communiqué ce jeudi que le policier ayant tué Naël en juin 2023 soit jugé devant la cour criminelle pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Ensuite, mieux vaut tard que jamais, l'enquête sur la mort de Quentin avance. Un septième suspect a finalement été placé en détention provisoire après une décision de la cour d'appel qui a annulé la remise en liberté décidée auparavant par un juge. Et enfin, les syndicats agricoles tirent la sonnette d'alarme face à la hausse rapide des prix de l'énergie. Selon la coordination rurale, le prix du gaz naturel a augmenté d'environ 85% depuis le début de la guerre avec l'Iran. Et nous célébrons ce 6 mars Sainte-Colette et Saint-Fridolin.
Ligne droite. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir ici Michel Hamas. Donc, Michel Hamas, je rappelle, est avocat au barreau de Marseille. Et, pardon, excusez-moi, décidément, cette toux ne me quittera jamais et elle m'emportera. Spécialiste de l'aide sociale à l'enfance. Alors, le sujet que nous allons traiter ici, enfin, les sujets que nous allons traiter seront bien sûr multiples. Nous avons une vingtaine de minutes. Mais parmi ces sujets, eh bien, il y a justement la question de qui est responsable de toute cette affaire. La question, donc bonjour Michel Hamas, est-ce que vous m'entendez ?
Bonjour, oui, je vous entends très bien.
Alors, la première question qui se pose, déjà je rappelle en contexte que vous avez donné un grand entretien à Liselotte Dutreuil, donc qui a retrouvé sur notre chaîne YouTube, grand entretien où vous avez décrit de manière, on va dire, factuelle, avec énormément de chiffres, justement, eh bien, toute cette histoire d'aide sociale à l'enfance, tous les problèmes qui peuvent en découler. La question, déjà, que je voudrais vous poser pour commencer, c'est à partir de quel moment ça a commencé, le déclin de l'aide sociale à l'enfance a commencé, et par quelle décision ?
Je n'ai pas l'explication à ça. Nous, on est dans ce contentieux depuis 8 ans, et depuis 8 ans, ça a déjà bien commencé. Mmh. Ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié, le nombre d'enfants placés est croissant. C'est une administration qui est goulue, qui dévore les familles. En fait, on a un filet qui est lancé et dont les mailles sont trop serrées. Ne devraient être pris dans ce filet que 20% des dossiers, c'est-à-dire vraiment les gens qui sont maltraitants, agresseurs sexuels, très impécunieux malheureusement. Ça devrait concerner que, pour moi, 20% des dossiers. Pour tout le reste, à mon sens, le placement n'est pas nécessaire ou il peut être nécessaire sur un temps court. Et ça s'est amplifié depuis 5 ou 6 ans, il y en a de plus en plus. Hein. C'est vraiment, il y a énormément il y a 337 000 enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, 227 000 qui sont placés, c'est gigantesque. Hein. C'est gigantesque. Donc, ce qui s'est amplifié par contre de manière notable, c'est le phénomène de la prostitution, de la pédophilie. Hein. Au début, j'ai employé le mot prostitution. C'est de la pédophilie. Hein. C'est-à-dire que les enfants qui sont sous l'emprise des réseaux de prostitution, qui sont captés dans les foyers par l'aide sociale à l'enfance, puisque dans les foyers de l'ASE, les réseaux de prostitution ont trouvé que c'était simple, c'est plus simple. Donc, ils récupèrent les enfants. Les enfants ne sont pas pas prostitués avant. Ils sont prostitués après. Il y a une seule raison, c'est que l'État ne protège pas nos enfants. Un enfant placé est en danger. Alors, il était peut-être en danger, et je mets des guillemets partout, parce que moi, j'estime qu'ils ne sont pas vraiment en danger chez les parents, là, pour 80% d'entre eux. Par contre, il est en danger, l'enfant placé est en danger. L'État ne protège pas les enfants de la violence, des agressions sexuelles, le proxénétisme. Je vous donne un exemple d'hier, qui c'est pas du la prox. J'ai une petite fille qui est menacée sur son lieu de placement à Annecy, menacée par des plus grands qui la forcent à vendre de la drogue. La petite veut pas trop. J'ai des SMS et des audios de menaces qui sont très claires. Je le dénonce à l'aide sociale à l'enfance d'Annecy, qui disent bon bah ils vivent ensemble. Comment vous voulez qu'on fasse? Bah faites votre travail. Le problème c'est l'absence de travail et l'intérêt de l'enfant n'est pas ce qui meut l'ASE.
Alors, ce qui est assez particulier quand même, c'est que on a l'impression que dans tout ce système, l'État va prendre en charge donc 4 fois trop d'enfants. C'est ce que vous dites. Évidemment, c'est logique, mais il n'arrive pas à prendre bien en charge justement la grande majorité de ces enfants. Donc les chiffres que vous donnez d'ailleurs sont particulièrement inquiétants. Hein. Je vais les rappeler, mais 90 000 viols déclarés dans les foyers de l'ASE, 20 000 enfants qui se prostituent à partir des foyers de l'ASE. Donc finalement c'est quelque chose qui devient presque commun. Dans le fond, comment vous expliquez le fait qu'il y ait cette décision à l'origine à la fois de prendre l'enfant alors qu'on ne doit pas prendre l'enfant ou qu'on doit le placer ailleurs, en tout cas dans un contexte plus familial et pas dans un foyer de l'ASE, et en plus que le foyer de l'ASE s'en charge lui-même mal. C'est-à-dire que, est-ce que selon vous, ça relève d'une question idéologique? Est-ce que selon vous, ça relève peut-être d'une idée d'État nourricier? Qu'est-ce qui motive finalement ce paradoxe absurde?
Je vous présente des excuses avant de parler. L'incompétence, c'est ça le mot. On a voulu bien faire en décentralisant dans les années 80, en confiant l'aide sociale à l'enfance, qui avait un autre nom à ce moment-là, au département. Là, le département, il est moins compétent que l'État, il n'y a pas photo. Le département, ce n'est pas l'État. Et moi, je dresse un constat d'échec. Il y a un chiffre que vous n'avez pas donné, mais qui est scandaleux. Il n'y a que 5% des enfants qui sont placés qui passent un bac général. Oui. Ouais, c'est tout simple. C'est tout simple. Par rapport à la population française, il n'y en a que 5%. Ce qui veut dire que, comme ils les déscolarisent la plupart du temps, l'enfant est chaud. Là, on parle des agressions, du sexe, tout ça. Oui, oui. Mais 5% des enfants sont déscolarisés. Je vous donne un autre exemple d'hier. On a un enfant qui va être placé à Paris avec un protocole médical super lourd, mais vraiment super lourd. C'est un enfant qui a des problèmes de comportement, qui peut être agressif et qui a besoin de tempérer avec un suivi médical, un process, des équipes. Hier, tout a été supprimé. C'est-à-dire que cet enfant qui a un suivi médical, un process, des professionnels quasiment 3 fois par semaine, à partir de demain, il n'a plus personne, il est à Paris. Plus personne. Il va être dans un foyer où il va dérouiller, il va prendre des coups, où on va pas faire son suivi médical. Comme il n'a pas le suivi médical, ses actes vont être défaillants, il va frapper, il va avoir des cris. Il y a une absence. On pense que c'est l'autre qui fait. C'est vraiment le rugby. On donne le ballon à un autre, et à un moment, personne n'est responsable. Personne n'est responsable de ses enfants. Et la compétence, on la croise pas beaucoup. dans les palais de justice. Je ne parle pas des juges, hein, parce qu'avec les juges, on pense pareil. Je parle de la compétence de l'aide sociale à l'enfance. Moi, pardon pour ceux qui m'écoutent, moi, j'aime la compétence. Voilà. Je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait beaucoup plus de pédopsychiatres. Je ne suis pas opposé à qu'il y ait plus de psychologues. Il y a un truc qui est génial, qui fonctionne bien. Moi, au début, j'étais contre, parce que je pensais que ça ne servait à rien, et j'étais stupide, puis je ne connaissais pas la matière. Maintenant, je dis, mettons en avant la thérapie. La thérapie pour l'enfant, pour les parents, pour l'agresseur. Par exemple, celui qui va agresser sexuellement quelqu'un, on doit soigner celui qui a été victime, mais il faut soigner surtout celui qui viole. Et la thérapie, c'est super. Ils ne leur donnent pas. Ils disent, on a des psys sur les lieux de placement, donc comme on a des psys, bon, c'est bien. Mais ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de thérapie. Je vous donne un autre exemple super matériel. Lundi, on défend des parents dont la petite fille est placée. Et il y a un garçon qui en a violé 6 sur le lieu de placement. Alors, je le dis, hein, parce que parfois on oublie, hein, on n'a pas le droit de violer les gens. Là, sur le lieu de placement, ce garçon va toucher sexuellement et en violer 6. 4-5 petites filles et un petit garçon. Ils n'ont pas mis en place une thérapie de soins, une prise en charge de l'agresseur. C'est-à-dire que cet enfant, qui a maintenant 15 ans, 16 ans, se construit sans aucun travail sur ses gestes défaillants. Ce que nous disons, c'est que l'aide sociale à l'enfance produit un nombre d'agresseurs sexuels et violents, mais incroyable. Alors, là, je parle du sexe, mais c'est pareil pour les couples. Oui. C'est défaillant. Le système est défaillant. On n'arrive pas à dire d'où ça vient. On sait qui sont les responsables, par contre. Hein, il y a des responsabilités, il faut mettre des mots. Le premier...
Alors, responsable, oui.
C'est le président du département. Pourquoi ? Juridiquement, là on fait du droit deux secondes, quand un enfant est placé, il n'est jamais placé à l'ASE. Il est placé auprès du président du département, et le responsable juridique du département, c'est le président du département. Mmh. C'est la raison pour laquelle on a signé les présidents de département à Marseille, en Essonne, à Paris, à Évry, personnellement. Après, la chaîne entière est responsable. Le gardien de l'immeuble, du moins celui qui est là la nuit, parce que souvent on n'a pas des éducs, le soir on a des intérimaires. Celui qui ouvre la porte aux petites filles qui vont se prostituer, qui sont livrées aux pédophiles, il est responsable. Voilà. Moi, qu'il ne soit pas poursuivi, je ne comprends pas. Ce même gardien, quand il y a un enfant qui dérouille, ou quand il y en a un qui va violer mon petit garçon ou ma petite fille, il est responsable au même degré. Il ne peut pas dire « je ne suis pas responsable ». Et ce que nous disons, nous, par l'expérience, c'est parce que maintenant on est vieux. Dans les internats, il n'y a pas ça. Dans les colos, il n'y a pas ça. Ce problème aigu de viol, d'agression, de prostitution, il n'y a qu'à l'ASE.
Bah, en tout cas, oui, en tout cas, ce degré, c'est absolument évident.
Ce degré,
oui, c'est...
20 000. Et ce que nous disons aussi... Ce que nous disons aussi, et c'est du droit, et c'est tellement stupide qu'on n'agisse pas. Pourquoi c'est possible que les enfants soient livrés aux pédophiles ? Parce que les foyers sont dits ouverts, ce qui veut dire que vous, adultes, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Mais les enfants peuvent en sortir. Et c'est comme ça qu'elles sortent et qu'elles vont être livrées aux pédophiles. Et ce que l'on dit surtout, sur les 20 000 enfants qui se prostituent à partir de l'ASE, il n'y en a pas qui se prostituent dans les familles d'accueil. Ils ne se prostituent qu'à partir des foyers. Pourquoi ? Parce que famille d'accueil, le soir, la porte, elle est fermée.
Oui.
En famille, vos enfants ne sortent pas. Le soir, les miens non plus. Et l'emprise des réseaux de stup dans ma maison, il est difficile à établir. Alors que dans les foyers, c'est possible. Ce que nous disons, nous, il faut réformer ça tout de suite et faire que les foyers soient fermés. Et ça, un robinet, quand il est fermé, l'eau ne coule plus. Ce qui relève du bon sens n'est pas appliqué. Et nous, on a une déception avec les confrères avec qui je mène ce combat et les magistrats, parce qu'on mène le combat et les magistrats. On en a notamment un qui est devenu un copain, qui est à Nouméa. On en parlait, on a lancé l'alerte ensemble en mai, en disant on va signer le président du département, et là tout le monde va savoir. Et on pensait, parce qu'on n'avait pas connaissance de ce qu'est la politique. Nous pensions que lorsqu'on allait révéler les chiffres, tout ce qui se passe, ça, en quelques mois, on avait plié le match. Et depuis mai, il ne s'est rien passé. On a demandé en juin la fermeture du site sur lequel sont commercialisés les enfants. Mmh. C'est un site, vous tapez le mot sur Google, vous faites votre choix, vous scrollez, vous dites tiens, je veux celle-là, ça vous bascule sur WhatsApp. WhatsApp, vous prenez contact avec cette petite et après, vous avez un rapport sexuel tarifé avec. Mmh. On dit, il faut fermer ce site. On l'a dit en juillet, tout le monde nous a dit oui. L'intérieur, la justice, la santé, la femme, tout le monde dit oui. Et il ne se passe rien.
Il n'est toujours pas fermé?
Ah bah non, non, si vous voulez en acheter une, ça prend quelques secondes. C'est Uber. Quand on dit ça, alors on dit, on a rapporté nos dossiers. Puis nous, des dossiers, si vous saviez le nom qu'on a, c'est indécent. On a rapporté les photos de nos gamins chez eux, les photos des gamins sur le truc, et après, quand on les reconnaît pas sur le site, on voit que c'est elle, c'est pas plus que sur WhatsApp, c'est géolocalisé. On dit, voilà, au moins, dans ceux-là, il y a truc... Si il est possible d'en prostituer 87 de nous, continuellement, eh bien, ça n'a rien changé.
Comment c'est possible, en fait, qu'on soit incapable de mettre en place des thérapies, qu'on soit incapable de mettre des personnes justement dans les foyers qui soient formées, qui soient compétentes, dont on ait vérifié les casiers. En fait, on pourrait penser que c'est un manque de budget, mais ils ont un budget, l'aide sociale à l'enfance, c'est un budget qui est exponentiel, qui fait d'après moi deux fois celui de l'agriculture.
11 milliards 6. L'agriculture, c'est 4 milliards. La justice, c'est 13 milliards et eux, c'est 11 milliards. C'est dingue. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas pensé globalement qu'on allait vivre ces attaques. Personne n'a pu penser que l'aide sociale enfance protégeait pas les enfants, que donc ils sont en danger quand ils sont placés. Et que, donc,
on a toujours su que c'était pas le paradis, dans le fond. Mais à imaginer ce degré d'horreur, on était quand même très loin.
Et puis avec un budget comme ça...
Oui.
C'est une plaisanterie. Ce qu'il faudrait faire, ça relève que du bon sens. Fermer la porte du foyer. Coût zéro. Il faudrait mettre en place des thérapies. Travailler avec des thérapeutes. D'accord ? Et seulement, le juge pour enfants, c'est le seul juge en France qui ne peut pas ordonner de thérapie. Alors, il peut ordonner des médiations, ce qui, dans le cadre-là, ne nous sert pas grand-chose. Mmh. Ce seul juge qui ne peut pas ordonner la thérapie parent-enfant, thérapie des parents, thérapie, lui, il ne peut pas l'ordonner. Alors, on a saisi tous ces gens, la ministre de la Justice, l'Intérieur, la Santé, les femmes, on les a saisis en janvier, en juin, en disant « mais il faut que le juge pour enfant puisse ordonner des thérapies, ce qui est tellement logique ». Eh bien non. Et c'est pas encore le cas.
Mais Michel Hamas, en fait, il y a quelque chose qui m'échappe, je suis désolé, mais à ce stade, le niveau, encore une fois, d'horreur, de tout ce qui se passe dans ces foyers, le niveau de... Enfin, toutes ces choses que vous dénoncez, qui ne changent rien, malgré le fait que vous soyez en contact, c'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus seul à crier dans le désert, c'est-à-dire que vous avez eu des contacts avec, donc, vous le disiez, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, etc. Comment vous expliquez que ça ne change pas, concrètement?
Moi, je le comprends pas. Alors, vraiment, nous, ce qu'on a fait, on a dit, on dénonce, on lance l'alerte, et croyez-moi, on a pris des coups avec l'alerte. Hein. On a lancé l'alerte sur tous les médias, de toutes les chaînes télé, toutes les radios, tous les médias web, toute la presse écrite.
Mais qui vous a donné des coups?
On reçoit des plaintes de toutes les associations de la ZEU de France. Moi, j'ai des plaintes à l'ordre de manière régulière.
D'accord. La ZEU vous attaque pour dénoncer les manques de la ZEU.
Mais pas que la ZEU, les présidents de département. Par exemple, le président du département des Bouches-du-Rhône, on lui dit, il y en a plus de 800 à Marseille. Je mène une procédure contre elle en disant, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous saviez? Et sa réponse, au lieu de dire, on est dépassé, il faut qu'on travaille ensemble, c'est, il y a un avocat à Marseille qui jette l'opprobre sur tout le système. Elle a fait une conférence de presse pour me jeter la pierre à moi. Oui. Alors que moi, je porte le combat de plein de magistrats avec qui je travaille tous les jours, de dizaines d'avocats. Mon cabinet est sur toute la carte, dans les 189 tribunaux, il y a mon nom. Donc, on est tous ensemble, on travaille tout le temps. On a travaillé avec le président de la Cour d'appel de Paris, qui pense pareil que nous. Pareil que nous, on pense tous pareil. Seulement, personne ne prend en compte ça. Alors, première raison pour laquelle on planque les enfants sous le tapis. Un, parce que la France est friendly avec les pédophiles. Disons les choses.
C'est-à-dire
que dans notre inconscient, on a eu Masneff, on a eu Jack Land, on a ces gens qui ont théorisé la pédophilie, on a eu David Hamilton, on a ce film dont tout le monde se gargarise, Mort à Venise, qui est une histoire infâme de pédophilie à Venise. Hein, et nous, La pédophilie, c'est pas, y a pas un vrai combat contre. Alors oui, dans les médias, oui, oh là là, c'est pas bien. Mais dans la réalité, non. Je vous donne un autre exemple. Quand on arrête ces types qui ont des rapports sexuels avec les enfants, peignés, votre réflexe, à vous dire, voilà, là on va lui ruiner sa vie, il va prendre une bonne tannée. C'est pas du tout ça. Il va dire simplement, je n'avais pas conscience que c'était un enfant. Et il va passer devant le tribunal de police et il va prendre, ce qu'on appelle maintenant le tribunal de proximité, une amende. La plupart, à Albi, 19 types qui ont eu des rapports sexuels avec une de nos gamines de 14 ans, ils ont tous eu entre 500 et 700 balles d'amende. Si le prix du rapport sexuel avec l'enfant, la sanction, c'est 700 balles, comment dire avec des mots choisis, et par exemple, quand on arrête ces gens, comme il n'y a pas une politique globale de lutte contre la pédophilie en France, quand on arrête ces types, ils disent « Ah, moi, je ne savais pas. J'avais pas conscience. » Ils regardent même pas leur téléphonie, alors que dans la téléphonie, à la prise de rendez-vous, il y a forcément des photos de pédophiles. Ils regardent pas la téléphonie. C'est tout le temps. Et ça n'arrive parfois, ça, il passe pas à travers pour une raison. C'est parce que maintenant, nous, on médiatise, qu'on travaille main dans la main avec France Inter, avec France 2, et qu'on est en rapport, on a rencontré des journalistes courageux qui s'engagent de terrain. Et le seul dossier où on a mis tout le monde en prison, c'est quand face à l'absence totale de réponse de la police, la mère allait tous les jours dire « ma fille est à tel endroit », on nous disait « maintenant, arrêtez, allez chercher votre fille ». Le journaliste de France Inter, très courageux, Antoine Gignot, s'est mis en bas de l'immeuble, je dis « appelle ». Il a appelé, il dit « voilà, c'est France Inter, on est à tel endroit ». Et là, dans le quart d'heure, bac, pum, on arrête tout le monde, juge d'instruction, tout le monde au ballon, tout le monde au trou, et un dossier un peu digne. Mais dans tous les autres dossiers, il y a zéro dignité. Le même dossier, les mêmes clients, le même proxénète, la même fille, un mois avant, ça prend des mois pour que la police veuille aller arrêter ce type, jusqu'à ce que la mère aille avec une équipe en bas de l'immeuble, ils appellent là-bas, qu'ils arrêtent tout le monde. On a arrêté le Mac et 4 consommateurs, et là, ils ont libéré tout le monde.
Mais Michel Hamas, vous nous disiez il y a quelques minutes que les magistrats étaient avec vous, que les juges étaient avec vous.
Oui.
Comment ça se fait, à ce moment-là, que les peines soient si faibles, alors que... Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même de la justice là-dedans?
Alors, je parle des juges pour
enfants. Je précise qu'il ne nous reste que 2 minutes.
Hein. Les juges pour enfants, eux, se battent avec nous, à nos côtés, puisqu'ils n'ont pas de moyens. Ils sont face à l'ASE qui est défaillante. Après, le juge pénal, moi, je lui en veux beaucoup. Et alors, surtout, j'en veux au parquet, qui ne poursuivent pas. Et surtout, il faut dire les choses, c'est la politique. En fait, le responsable du parquet, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Il faudrait qu'ils disent, maintenant, il faut poser le problème de la pédophilie de masse. Ça n'a rien à voir avec Epstein. Moi, les gens qui commentent sur X et me disent, oui, Epstein, ou ça, Clinton, c'est pas ça. C'est de la consommation de masse. C'est Uber, vous payez avec votre carte bleue un enfant de 12 ans. Vous payez avec votre carte bleue un enfant de 12 ans qu'on met sous le tapis. Tout le monde sait, tout le monde a connaissance, il n'y a pas de responsabilité. Il y aura des responsabilités maintenant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment, en fait, dans le fond, d'une dilution de toutes ces responsabilités entre le président du département, entre effectivement le ministère de l'Intérieur, la justice, etc. Et finalement, au final, personne ne se sent responsable de près ou de loin de toute cette catastrophe. Mais en tout cas, merci Michel Hamas de porter ce combat de votre côté.
C'est moi
et justement
qui vous remercie d'être là.
De le dénoncer. Merci beaucoup. On vous réinvitera bien sûr dans quelques temps pour traiter à nouveau ce sujet en espérant des évolutions. Merci.
Ligne droite.
Et je reçois désormais Pascal Pointu pour sa chronique hebdomadaire. Alors, bonjour Pascal Pointu, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler du prix de l'essence, évidemment, donc on le sait, qui commence une très jolie hausse, on va dire. Je crois qu'on est à 85 $ du baril. Selon vous, où on va et pourquoi c'est dans le mur?
Oui, bonjour à vous tous. Hier, j'ai pris ma voiture électrique pour aller voir sur Ambert, à côté de la ville la plus importante à côté de chez moi, voir le syndrome de la pompe à essence. Et donc, j'ai constaté, comme nombreux Français, qu'il y avait la queue et que, bien évidemment, les prix avaient explosé, puisque Il y a 4 à 5 jours, nous étions à 1,75-1,78 le litre de carburant et nous sommes aujourd'hui aux alentours de, pour Carrefour, Amber, aux alentours de 1,92 et pour Intermarché, Amber également, aux alentours de 1,88. Donc, on se retrouve, si vous voulez, on se retrouve à une explosion des prix qui n'est pas censée, qui n'est pas normale, puisque si le litre de carburant était payé 1,85 il y a de ça 5 jours. Vous ajoutez à cela les taxes, la taxe d'assises, l'ex-TICPE, donc la taxe d'économie d'énergie sur un litre de carburant à 1,85 €, vous avez déjà 1,06 de taxes.
Ouais.
Ensuite, vous avez 0,25 pour le distributeur et 4 centimes pour le pompiste. Donc, nous sommes à 1,35 environ, rien que de prélèvement. Donc, ça nous fait le litre d'essence brute à 50 centimes d'euros. Et il faut savoir surtout que l'Arabie Saoudite n'est pas notre principal importateur de pétrole, puisque notre principal marché à l'heure actuelle, se tourne vers l'Amérique du Nord, l'Amérique, l'Afrique subsaharienne et l'Algérie. Donc, nous n'avons pas une forte proportion de notre consommation qui vient de l'Arabie saoudite. Donc, moi, quand j'entends M. Roland Lescure, ministre de l'économie, que je dirais qu'il se transforme en M. Pinocchio, puisqu'il ment comme il respire, et quand il nous dit qu'il va saisir la direction générale de la répression des fraudes pour faire annuler ces abus, je voudrais quand même dire au ministre de l'économie, et je suis pas ministre et je suis encore moins socialiste comme il l'est, que les prix de vente sont libres en France. C'est-à-dire que si demain vous voulez mettre le litre d'essence à 10 €, personne ne vous l'interdit. Vous en vendrez pas beaucoup, ça c'est certain. Mais quoi qu'il en soit, le ministre de l'économie, il peut faire des discours, il peut faire des grandes brassées d'air. Il a tort, il ment aux Français quand il dit qu'il va punir les distributeurs et punir les grandes surfaces pour des prix exorbitants. Il n'a pas le droit. Le prix de l'essence est libre et chacun met le prix de l'essence comme il le souhaite. Donc, il y a une compétition, bien évidemment, sur les grandes surfaces et ainsi de suite. Mais jusqu'à maintenant, l'augmentation profite à qui ? L'augmentation profite à l'État. C'est l'État, en ce moment, qui s'engraisse et c'est l'État qui actuellement s'enrichit, entre guillemets, puisqu'il y a les 3 900 milliards de dettes. Mais c'est quand même l'État qui profite de tout cela. Et M. Lescure, ministre de l'économie, nous fait croire qu'il va se lancer dans une croisade anti-prix sur l'essence. C'est totalement faux. Comme je vous le disais, le prix de l'essence est libre, comme le prix du pain, comme beaucoup de choses. Les prix sont libres en France. Maintenant, moi, je proposerai à M. Lescure, avec le surplus de TVA, avec le surplus de taxes qui rentrent à l'heure actuelle, ne serait-il pas meilleur de faire un fonds pour que des ménages moyens, voire faibles, puissent accéder à la voiture électrique, puisque nous sommes entièrement dépendants de l'énergie fossile. Hein. Les carburants, nous sommes malheureusement otages dans la prise de guerre qui se mène actuellement au Moyen-Orient. Et ça n'arrêtera pas demain, puisque ça repartira sur un autre système. Quand on voit que la Russie, paraît-il que nous n'importons plus de pétrole russe, paraît-il. Hein. Bon, il passe par la Grèce, il est appelé autrement, et il nous est revendu encore plus cher que quand on l'achetait à la Russie auparavant. Donc bon, au bout d'un petit moment, il faut y arrêter, il faut dire ce qu'il en est, il faut absolument que l'on puisse acheter des voitures électriques à moindre coût, et surtout pour les familles à faible revenu, et que l'on puisse, grâce à ces augmentations qui bénéficient à l'État, que l'on puisse, dans un premier temps, créer ce fonds, parce que ce seront des milliards là qui vont être collectés pendant un certain temps par l'État, puisque là aussi, à chaque fois que le litre d'essence augmente, les taxes augmentent. Hein. Donc, on n'a jamais vu l'État nous dire on va baisser les taxes sur le prix du carburant. Au contraire, le prix du carburant augmente, les taxes augmentent. Donc, faisons un fonds pour développer le marché de la voiture électrique. Soyons beaucoup moins accros à l'énergie fossile et surtout que M. Roland Lescure, ministre socialiste du gouvernement Le Cornu, nous dise bien qu'en France, les prix sont libres et que ce qu'il dit à l'heure actuelle est un véritable mensonge puisqu'il ne pourra ni intervenir auprès des distributeurs et des pompistes et ensuite que nous puissions quand même revenir à une situation à peu près acceptable, sachant que l'Arabie Saoudite n'est pas, et de loin et de très loin, n'est pas notre principal importateur de pétrole. Et donc, il nous faut absolument trouver des solutions, parce que là, on va avoir, comme j'ai vu par exemple sur certaines vidéos, à Mougins, dans les Alpes-Maritimes d'ailleurs, tout près du ministre des Transports de son lieu de résidence des Alpes-Maritimes, le litre d'essence à 2,25 €.
Hein. Eh ben.
Donc sur l'autoroute, à 2,25 €, il faut y arrêter. Là, il y a de l'abus. Mais comme je vous dis, chacun est libre de mettre le prix qu'il aura envie. Donc au bout d'un moment, il va falloir faire autrement. Et puis il va falloir aussi que l'on sache sur quel pied on va danser. Oui. Puisque la situation d'Emmanuel Macron dans ce conflit au Moyen-Orient est pour le moins étrange.
Oui, effectivement étrange, et il est étrange de se constater quels sommets peuvent atteindre les prix de l'essence, mais on peut toujours aller plus haut, je crois. Merci beaucoup, Pascal Pointu, à la semaine prochaine.